Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story. On vous accompagne jusqu'à 9h, mais pour l'heure, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le début de l'année est marqué par le retour de l'inflation. Les prix grimpent en janvier. Cela se ressent sur le caddie, surtout si vous aimez le chocolat, le café ou la viande rouge. Après l'Australie, la France en passe de devenir le deuxième pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les députés ont approuvé le texte hier. Il reste encore du chemin avant son application espérée à la rentrée. Ça n'en finit plus. Les crues en Bretagne sont menacées par une nouvelle perturbation. Trois départements sont toujours en vigilance orange.
Les prix repartent à la hausse en janvier.
Après une légère stabilité dans les supermarchés, comptez 1,7% de plus en moyenne en ce début d'année sur un an. C'est le constat du dernier baromètre LSA Circana, inflation concentrée sur certains produits. Et à la fin, ça pèse sur le ticket de caisse. Reportage à Vitry-sur-Seine, au sud de Paris. Célestin Bougère.
Michael, un expert comptable, sort de ce supermarché, les sacs remplis. Lorsqu'il regarde son ticket de caisse, il est un peu en colère.
Là, on vient de sortir, on a 200 euros de course, on n'a pas la pression d'avoir énormément de choses qu'on a achetées. De quoi manger, un petit peu de produits d'entretien dans la maison, et puis tout de suite, ça monte à 150, 200 euros. Quoi.
Les principaux produits concernés par cette augmentation des prix, la viande rouge, les boissons sucrées, le café, mais aussi le chocolat. Au grand dam de Jean-Yves, un père de famille qui a l'habitude de s'acheter des tablettes.
Le chocolat que j'aime bien, il y a eu une 30 à 40 centimes de différence en quelques mois.
Est-ce que vous achetez toujours cette tablette ou pas forcément?
J'ai voulu l'acheter, mais j'ai eu peur. Finalement, j'ai priorisé les produits des enfants.
Des articles qui tirent vers le haut le prix moyen des produits de grande consommation, d'après Émilie Maillard du cabinet Circana, à l'origine de ce baromètre.
Les tablettes de chocolat, on est quasiment à 20% d'inflation par rapport au mois de janvier 2025. Des catégories où il y a de la tension sur les matières premières, donc le café, le chocolat, la viande de bœuf.
Une inflation qui ne concerne pas tous les articles. Le sucre, l'huile et certains produits ménagers notamment ont vu leur prix baisser en un an.
Une étape majeure. Emmanuel Macron salue le feu vert des députés qui ont voté l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans hier soir à l'Assemblée nationale. Le gouvernement veut aller vite et espère une application à la rentrée. La France deviendrait alors, je vous le disais, le deuxième pays au monde à bloquer l'accès des réseaux sociaux aux plus jeunes après l'Australie. Romain Houg, toutes les plateformes sociales ou presque seraient concernés.
Oui, Snapchat, Instagram ou encore TikTok, seules exceptions, dit le texte, certaines plateformes éducatives ou des messageries comme par exemple WhatsApp. Alors, comment ça va se passer? Bien d'abord, pour s'inscrire à un réseau social, il faudra faire vérifier son âge, soit par reconnaissance faciale, soit par le téléchargement de documents d'identité. Et puis, pour tous les comptes déjà existants, y compris le vôtre, il faudra également procéder à une vérification similaire, tout simplement pour s'assurer qu'un mineur n'ait pas essayé de tricher en créant un compte sous une fausse identité. Mais tout cela est encore loin d'être acté. Le texte doit encore être validé au Sénat dans les semaines à venir. Et puis surtout, il doit être déclaré conforme au droit européen. Et ça, ce n'est pas encore gagné. En 2023, la France avait tenté d'instaurer une majorité numérique à 15 ans. Mais le texte n'avait jamais pu être appliqué pour cette raison.
Et alors que les réseaux sociaux font débat chez les plus jeunes, la Commission européenne ouvre une enquête contre X, anciennement Twitter, et son intelligence artificielle Grok, pour avoir autorisé la génération de photos truquées de mineurs ou de femmes faussement dénudées sans leur consentement. 3 millions d'images explicites ont été créées en décembre dernier. L'heure des réquisitions cet après-midi au procès de Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué à des fins sexuelles la députée Sandrine Josseau. L'ancien sénateur est jugé depuis hier. Il a longuement été interrogé avant la déposition de la plaignante. Guillaume Bier du service police-justice a suivi l'audience pour RMC.
Puis aller voir un ami, le cœur léger. Au fur et à mesure de la soirée, j'ai découvert un agresseur, résume Sandrine Josseau, par moments en larmes lorsqu'elle raconte son calvaire chez Joël Guerriau. L'ex-sénateur, lui, a dû s'expliquer pendant plus de 3 heures à la barre. Entre maladresse et invraisemblance, il raconte qu'il se sentait très mal à cette période, mais refusant les antidépresseurs, il avait obtenu ce sachet de poudre auprès d'un autre sénateur, un euphorisant selon lui. En dépit de son comportement étrange ce soir-là, de ses tours de magie et ses variations d'éclairage, il assure qu'il n'avait aucune intention malsaine à l'égard de Sandrine Josseau et que c'est par inadvertance que la drogue était dans son verre. C'est récemment que Joël Guerriau dit avoir réalisé la gravité des faits. « J'ai été stupide, je m'en veux tellement », dit-il en pleurant, avant d'oser répéter qu'il soutient la députée dans son combat contre la soumission chimique.
Faire de Marseille une vitrine de la lutte contre le narcotrafic, ambition de Mehdi Kessassi. À moins de 2 mois des élections municipales, le militant écologiste de 22 ans, endeuillé par la mort de ses deux frères victimes de trafiquants de drogue, rejoint la liste printemps marseillais du maire sortant Benoît Payan. La Laïta, l'Oust et le Blavet, des noms de rivières et de fleuves bretons qui font la une de l'actualité depuis une semaine maintenant en raison des crues. L'heure n'est pourtant pas au répit. L'Ille-et-Vilaine, le Finistère et le Morbihan restent en vigilance orange ce matin, conséquence d'un nouvel épisode pluvieux attendu sur la région. Après une accalmie, les habitants de Malétroit dans le Morbihan redoutent le retour de la pluie. C'est le cas de Guy, rencontré ce matin par notre envoyé spécial Marion Gauthier pour RMC.
C'est vrai, ils annoncent à nouveau de la pluie jeudi et vendredi, mais j'ai envie de dire, à chaque jour suffit sa peine, et attendons déjà de voir ce qui va se passer aujourd'hui, parce qu'on devrait reprendre une petite remontée des eaux aujourd'hui, mais je pense qu'on ne sera pas tranquille beaucoup avant dimanche. Donc soit on nettoie, mais on sait que ça peut revenir, comme en 2014, on avait dû nettoyer 4 fois. Mais j'espère que là, si la décrue se poursuit, on n'aura été inondé que 2 fois cette année, ce serait bien.
La pluie en Bretagne, le froid et la neige aux États-Unis, 600 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin, conséquence d'une tempête hivernale historique jusqu'à moins 45 degrés par endroit, un froid extrême qui a fait au moins 23 morts. Aux États-Unis, toujours, les agents des services fédéraux vont commencer à quitter Minneapolis ce mardi. Annonce du maire de la ville, théâtre de vives tensions après la mort d'un deuxième manifestant ce week-end tué par la police de l'immigration, et Donald Trump d'amorcer une tentative d'apaisement. Le président ne veut pas voir de gens blessés ou tués dans les rues, dit la Maison Blanche. Les Français addicts au sport, 72% ont pratiqué une activité physique l'an dernier, chiffre du baromètre Santé Sport que vous révèle RMC ce matin. À titre d'exemple, 13 millions de personnes pratiquent la course à pied en France. Reportage aux côtés d'adeptes du running dans le journal de 8h.
7h07, il faudra une victoire demain pour les Bleus du Hand face à l'Allemagne.
Ce sera la dernière chance de qualification pour les demi-finales de l'Euro après leur défaite hier soir face à l'Espagne, 36-32. La deuxième dans ce tour principal en 2 matchs. Écoutez la réaction du capitaine tricolore Ludovic Fabregas.
On a très mal débuté le match, on a manqué certainement de concentration et d'appétit sur cette rencontre, et on l'a payé cash, hein. Les Espagnols méritent la victoire. Ce qui me dérange, c'est qu'on avait quand même dit que la victoire face au Portugais n'avait du sens que si on était capable d'enchaîner. On l'a pas fait, et on peut pas montrer 2 visages comme ça totalement différents en 2 jours. On n'a pas saisi une opportunité de relancer la machine. Cette défaite, on la mérite aussi et on l'a cherchée, donc tant pis pour nous.
Et la France qui obtient une 8e place pour les épreuves de ski alpin aux Jeux de Milan-Cortina. Une chance à saisir pour Alexis Pinturault. Le triple médaillé olympique écarté de la liste hier devra faire un bon résultat ce soir et demain sur le géant et slalom de Schladming en Autriche. Face à lui, 2 autres Français en lice, Favreau et Muffa Jandé. La bonne nouvelle, c'est qu'à 10 jours des Jeux, la neige est là. D'importantes chutes de neige ont recouvert le nord de l'Italie.
C'était le journal de Thibaut Texer. Et Thibaut, vous le disiez à l'instant, 72% des Français disent pratiquer le sport 1 à 2 fois par semaine. Vous êtes nombreux à réagir et à témoigner. Joël nous appelle du Pontet, dans le Vaucluse. Bonjour Joël.
Oui, bonjour Apolline.
Joël, super sportif.
Oh non, je vais pas me qualifier de super sportif.
Bah alors racontez-nous, parce que j'ai quand même l'impression que vous marchez, vous courez,
oui,
vous faites
oui,
du vélo.
Voilà. Ben, c'est-à-dire que je pratique la randonnée depuis que j'ai 17 ans, donc ouais. il y a pas mal de temps déjà.
Vous avez quel âge, pardon, de vous poser la question, Joël?
J'ai 63 ans.
Ok.
Ouais, ça passe vite. Et du coup, j'ai toujours aimé la randonnée, j'ai toujours aimé marcher, et en plus de ça, j'ai eu une voiture très tard, donc j'ai pris des habitudes, c'est vrai que je marche beaucoup, et puis en général, j'essaie de marcher en minimum 11, 12 000, voire jusqu'à 20 000 pas par jour.
Ah oui, c'est beaucoup quand même, même dans la vie quotidienne, même quand vous allez bosser.
Bah pour l'instant, disons comme je suis plus ou moins saisonnier, que j'ai pas encore retrouvé pour cette saison, donc on va dire que j'ai du temps. Voilà, donc
d'accord.
J'ai du temps. Je mets à profit pour marcher, oui.
Et vous vous sentez bien? Vous vous sentez bien?
Voilà,
vous sentez
oui,
que ça vous fait du bien?
Oui. Bah si vous voulez, plus ou moins, le fait de marcher en montagne, ça a été comme une sorte de thérapie.
Ouais.
Voilà, par rapport à une existence un peu compliquée, donc ça m'a sauvé de beaucoup de choses. Et c'est vrai que marcher, ben j'aime beaucoup, ça me fait.
Mais vous avez parfaitement raison, et je pense que sur le fait effectivement d'avoir l'esprit libre, d'avoir un moment pour soi, c'est aussi important pour le physique que pour le mental. Hein. C'est ce que vous ressentez visiblement, Joël.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis je me déplace en vélo. Voilà, je suis à 4-5 km du centre-ville d'Avignon, donc je n'ai aucun besoin de monter dans une voiture qui en plus est une voiture diesel. Quand je monte dans la voiture, honnêtement, vous savez, c'est pour faire 300, 400, 500 km.
Ouais, c'est ça.
Pas pour aller chercher
Ça n'est que pour les longs trajets, mais c'est aussi une habitude de vie au fond, c'est une habitude, un réflexe de vie. Merci Joël, c'est la première fois que je vous reçois, Joël, non?
Oui, voilà. J'ai une petite remarque à vous faire.
Allez-y.
Oui, voilà. Alors, je suis un petit peu... Enfin, comment vous dire ça, je suis un petit peu gêné par le fait... bon, j'écoute RMC, je connais d'autres émissions, les grandes gueules, tout ça. Je suis un petit peu gêné par ce vouvoiement de façade que vous avez dans l'équipe. Alors que, par exemple, dans les grandes gueules, bah,
c'est tout à fait. Alors, ça m'intéresse. C'est chouette que vous disiez ça, Joël, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose régulièrement. Je vais tout à fait vous raconter les coulisses. Évidemment que dans la vraie vie, on se tutoie avec Mathieu, avec Thibaut. Mais c'est vrai qu'on, le matin, c'est le moment de l'information. Il y a quelque chose de plus solennel, un peu plus. Mais vous avez raison, il faut pas que ça intimide. Joël, si vous voulez que je vous tutoie, je te tutoie.
Oui, non. Allez. C'est pas ça, mais par exemple, je me souviens. Vous étiez avec Charlemagnien pendant je sais pas combien d'années. Ouais. Et ce vouvoiement, ouais. C'est vrai que vous êtes connu quand même pour être une station qui est assez,
assez naturelle, assez naturelle, assez franche.
Voilà.
J'y réfléchirai. Franchement, Joël, j'y réfléchirai parce que c'est vrai qu'on se pose régulièrement la question, pour être tout à fait honnête. On se dit que le matin, il y a un côté un peu solennel à réveiller les gens, à être dans l'information avec des horaires très précis, etc. Et qu'ensuite, on est dans un moment un peu plus casual, comme on dit aux États-Unis à partir de 9h. Mais votre remarque, j'en tiendrai compte. Merci beaucoup, Joël, en tout cas. Et bonne journée à vous. Marchez bien. Il est 7h11 sur RMC. On passe de la marche à la voiture, puisqu'on va revenir sur cette question. Le permis de conduire, qui est quand même un sésame indispensable, notamment pour l'emploi la plupart du temps, et bien désormais, il ne sera plus financé par le compte professionnel de formation. Bonjour Pierre Chasseret.
Bonjour.
Pour présenter l'association 40 millions d'automobilistes, vous avez même écrit au gouvernement pour dire que c'était pas normal de faire des économies sur le dos, notamment des travailleurs. Ça vous révolte? On va revenir aussi sur les ZFE. Ça devait être interdit officiellement hier, mais de manière assez discrète, le gouvernement a repoussé le vote. On y revient dans un instant et ça vous fait réagir au 32-16. Il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Financer son permis de conduire avec son compte formation, c'est terminé. C'est ce que vous avez découvert dans le budget 2026. Pierre Chasseret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Votre parti pris ce matin, c'est que le permis de conduire, c'est souvent quand même la meilleure formation pour obtenir un emploi. Et ça a été assez discrètement sorti du budget.
Oui, c'est le diplôme le plus partagé de France. C'est le diplôme qui permet d'avoir un emploi. Vous arrivez à Pôle emploi ou France Travail, appelons-le comme
c'est
on veut.
C'est la première question qu'on vous
pose. Et au final, on avait un moyen pour ceux qui n'avaient pas le permis, mais qui travaillaient, qui cotisaient pour leur compte personnel de formation. Ce moyen, c'était d'utiliser ce compte de formation pour financer tout ou partie du permis de conduire. C'est fini. Maintenant, c'est terminé. Ce sera réservé uniquement aux demandeurs d'emploi. Et il y a quelque chose de philosophique qui me gêne un petit peu. C'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous bossez, vous cotisez, c'est votre argent, vous l'avez volé à personne, c'est pour votre propre formation, vous ne pouvez plus l'utiliser pour le diplôme le plus important dans le cadre d'une recherche d'emploi. Ça me gêne quand même.
Le compte personnel de formation, effectivement, comme vous le dites, on cotise, on met de côté en réalité cet argent. Le coût moyen du permis de conduire, aujourd'hui en France, c'est 1500 euros. J'allais dire minimum.
Ouais, vraiment minimum. Ça, c'est le forfait 20 heures. Ensuite, on sait tous qu'il faut un petit peu plus de leçons. Moi, j'ai envie de dire, pour que personne ne soit surpris lorsqu'il arrive à l'auto-école, on est quand même allègrement aux alentours de 2000 euros. Hein.
2000 euros voilà. En moyenne. Est-ce que c'est aujourd'hui un frein pour passer son permis?
Bien sûr, c'est toujours un frein. Un frein. On s'était engagé du côté du président de la République pour le permis moins cher en début de mandat. C'était un engagement solennel du président. Moi, pour ça, j'avais deux solutions. La première était simple. Je n'ai toujours pas compris, Apolline, pourquoi on ne le met pas en place. Le code à l'école, au lycée. Le code de la route au lycée. On est tous sur la route, piétons, cyclistes. Donc le code de la route, il fonctionne pour tout le monde. Comment se fait-il qu'on le passe
et
pas
ça,
au lycée?
Et ça, tout le monde pourrait le passer.
Ça, je comprends pas.
Vraiment, ça ferait partie des examens qu'on passe à l'école. C'était devenu très important, le permis par le compte personnel de formation. Un candidat sur trois au permis utilisait le compte personnel de formation pour pouvoir financer son permis. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un peu de dérive, un peu d'abus?
Mais il n'y a pas de dérive, c'est notre argent, en tout cas, bon, pas le mien, mais celui de la personne qui a cotisé. Il n'a pas volé cet argent. Qu'il fasse cette formation pour l'utiliser au permis de conduire, ou qu'il fasse cette formation pour un perfectionnement en anglais, ou en espagnol, ou peu
importe. Il faut quand même être honnête. On met de côté cet argent, mais l'État met aussi au pot. À la fin, l'État dit quand même que le coût du compte personnel de formation, donc pas seulement la question du permis, c'est 2 milliards d'euros.
Mais alors moi je suis embêté parce que j'avais une autre mesure. La mesure elle était simple, c'était la portabilité du compte de formation, c'est-à-dire permettre pour les familles qui, vous savez, quand vous avez 2-3 enfants qui arrivent au permis de conduire, faites 3 fois 2000, vous allez comprendre ce que ça donne. Donc j'avais une idée, ce qui était plutôt pas mal, c'était de pouvoir transférer ce compte de formation sur nos enfants pour permettre d'alléger le budget du permis de conduire. Peut-être en partie, la moitié, 50%. Voilà quelque chose qui aurait
partager
permis l'accès à l'emploi.
Partager en quelque sorte l'usage de son compte personnel formation.
Donc au final, on se retrouve avec l'inverse, c'est-à-dire qu'au final, il n'y a plus rien.
On ne peut plus l'utiliser du tout. Question bonus quand même, Pierre Chasseret, les ZFE, la suppression devait être votée, devait passer au vote aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça a été retiré par le gouvernement. Ils disent qu'on fera ça sans doute après les municipales. Pourquoi ?
Je l'ai en travers, Apolline, parce que là, il vient de se réunir une commission mixte paritaire. Donc on a eu le vote de l'Assemblée nationale qui a tué les ZFE. On a une commission mixte paritaire, des sénateurs, des députés qui ont dit « Ok, on tue les ZFE, zone finie, enterrée ». C'était ça, ZFE. Et au final, en dernière minute, parce que ça ne plaît pas à un membre du gouvernement...
C'est qui ?
En tout cas, je pense que...
Ouais, si vous dites ça, c'est que vous avez bien quelqu'un derrière la tête.
Il me paraît évident que le Premier ministre est totalement impliqué dans cette question.
Et pourquoi
Je ne peux pas imaginer que le président de la République ne soit pas impliqué dans cette question.
Et pourquoi il ne voudrait pas interdire les ZFE?
Parce que c'était le là de la mandature anti-voiture d'Emmanuel Macron. Ce qui me gêne, c'est que là, on vient de faire quoi? Un bras d'honneur au Parlement. Ni plus, ni moins. On a dit aux députés, vous voulez tuer les ZFE? C'est pas grave.
On vous empêche de le faire, quoi.
On va vous empêcher.
Permet pas de pouvoir le voter.
J'ai une bonne nouvelle. Qui en France va vouloir faire un massage cardiaque aux ZFE qui sont mortes? Je pense
absolument personne. Vous pensez qu'au municipal, y compris les écolos, ils ne plaideront plus pour les ZFE?
Je pense qu'il faut être fou aujourd'hui pour remettre en place dans quelques mois une mesure qui remettra une nouvelle fois la France dans la rue.
Et vous n'hésitez pas à réagir, y compris sur cette question des ZFE et du permis de conduire. Vous connaissez le chemin, c'est le 32-16. Pierre Chasseret, merci d'avoir été avec nous ce matin, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Pendant ce temps-là, notre historien du matin est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, les images dénudées créées par l'intelligence artificielle sont dans le viseur de l'Union Européenne.
Oui, et pourtant la nudité n'a pas toujours choqué hein, jusqu'à la Renaissance. On peignait des corps nus sans que ça gêne personne. Et puis un jour, tout a changé. On a voulu se rhabiller.
Vous nous le racontez dans un instant. Arnaud Demange va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC. Restez bien avec nous, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, la Commission européenne lance une offensive juridique contre Grok. Grok, c'est l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Et en cause, il y a une fonctionnalité qui déshabille n'importe qui à partir d'une photo.
Oui, un phénomène qui prend une tournure inquiétante. Alors voilà comment ça marche. Vous prenez la photo de n'importe qui et en un clic, Grok transforme la photo de cette même personne, mais en version dénudée. Bon, si vous préférez, l'appli vous déshabille. Même si X assure que cette fonctionnalité a été suspendue depuis le 15 janvier, l'entreprise risque une amende pouvant aller jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial.
Au-delà du scandale évident, on n'a jamais été très à l'aise avec la nudité?
Bah non, hein, c'est un de nos plus vieux tabous. On sait tous que sous nos habits, nous sommes nus. Et pourtant,
ah
on ne veut pas que ça se tâche.
Non, hein, tu ne remarqué. Me dis pas ça.
Et là où ça s'est particulièrement manifesté, c'est évidemment dans l'art. Prenez la Renaissance, un âge d'or de la peinture, hein, avec des artistes légendaires, Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange. À cette époque, on peignait des personnages tout nus et ça ne gênait strictement personne. Puis, à la fin du XVIe siècle, on s'est tout à coup mis à trouver ça complètement scandaleux. Le problème, évidemment, c'est que ça concernait plein de chefs-d'œuvre. Alors évidemment, comment faire? Eh bien, on a décidé de recouvrir tous les sexes masculins.
On a repeint les tableaux?
Exactement, on a repeint les tableaux, Apolline. Au Vatican, par exemple, on engage même un peintre pour cacher les sexes. Ce peintre, il s'appelle Volterra. Et avec un pinceau, il va recouvrir tous les sexes masculins d'une sorte de petit voile, hein, comme une petite serviette. Ce peintre va même avoir un surnom, c'est le grand culottier, puisque finalement, eh bien, son travail consistait à mettre des slips à tous les hommes du Vatican.
Des tableaux ont aussi provoqué d'énormes scandales.
Oui, et un des plus mémorables, c'était en 1865. le peintre Édouard Manet expose un tableau à Paris. Ce tableau, ça s'appelait Olympia. Il représentait une femme nue sur un lit, sauf que cette femme avait existé pour de vrai. C'était un modèle, hein, si vous préférez. Et c'est justement ce qui a scandalisé. On y a vu de la pornographie. En passant devant le tableau, il y avait même des gens qui crachaient dessus et qui menaçaient de le crever avec leur parapluie. Et cette histoire est allée tellement loin qu'on a fini par accrocher le tableau tout en haut du mur pour le rendre inaccessible aux gens qui venaient le voir. Aujourd'hui, ce tableau est estimé à 52 millions d'euros.
Oui, donc voilà.
La nudité, c'est porteur.
C'est une belle vengeance. Il y a aussi évidemment l'origine du monde.
Oui, l'origine du monde, un tableau de Gustave Courbet peint au milieu du 19e siècle et qui représente un sexe féminin en très très gros plan.
En majesté.
En majesté, voilà. Ce tableau, on l'a tous déjà vu quelque part. Mais à l'époque, c'était beaucoup trop scandaleux pour être montré. Donc pendant 122 ans, il n'a jamais été exposé. Il est passé de collectionneur en collectionneur à travers le monde. Il a été en Hongrie, en Russie soviétique. Et il faut attendre 1988 pour qu'il soit montré au public. C'était à New York. Depuis 1995, ce tableau est exposé au Musée d'Orsay à Paris. Et c'est une des œuvres les plus populaires au monde.
Merci Arthur Chevalier, l'historien et amateur d'art d'Apolline Matin. 7h25, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Il arrive nu sous ses vêtements.
Salut Arnaud, vous êtes nu sous vos vêtements.
Bonjour.
Dans le face-à-face, tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois l'ancien Premier ministre Gabriel Attal.
Gabriel Attal, le big boss de Renaissance, enfin futur ex-Renaissance, parce que vous avez vu, il veut encore changer le nom du parti. Après En Marche, La République En Marche et Renaissance, voilà. En fait, ce qui n'allait pas.
Ensemble aussi.
Hein?
Oui, ensemble, il y a eu Ensemble aussi. Ouh là là, on s'est même, on s'en souvient même.
Parce qu'en fait, ce qui n'allait pas dans le macronisme, c'était le nom.
Voilà.
Le reste, ça va, le nom, ça va pas. Il y a d'autres marques, hein, qui ont changé de nom. Par exemple, Raider, qui est devenu Twix.
Ah voilà. Oui, c'est vrai.
Orpea, qui est devenu CNews. une anecdote rigolote. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une marque de voiture qui s'appelait SS?
Non.
C'est vrai, il y avait les SS Cars, les automobiles SS qui sont devenus Jaguar.
D'accord.
C'est une vraie anecdote.
C'est voilà. Mieux quand même.
Vraiment, ouais. Arthur Chevalier. Donc voilà, Gabriel Attal suit le même chemin que Marine Le Pen, changer le nom de son parti pour faire oublier qu'il a été créé par quelqu'un qui a eu un problème à l'œil. C'est la même chose. Je suis pas sûr que ce soit suffisant s'il veut faire une rupture avec le macronisme. Je veux dire, même si son parti s'appelle Les Beaux Gosses du Centrisme, dirigé par Gabriel Attal, c'est le nom de Gabriel Attal, Premier ministre d'Emmanuel Macron. Les gens vont s'en souvenir, en fait. Faudrait que lui aussi il change de nom, qu'il vous le dise à l'interview. Gabriel Attal, bonjour. Madame, je ne m'appelle plus Gabriel Attal.
Ah oui ?
J'ai changé pour un nom plus classe. Appelez-moi Jean-Paul Rouselier. Non, appelez-moi Max Power. Non, tiens, appelez-moi Kalash le régulateur. Ça, ça sonne bien. D'accord, alors Kalash le régulateur, vous êtes candidat. Non, en fait, j'ai changé d'avis, je m'appelle DRH du bloc. Ça, c'est cool.
Ah ouais.
Donc, le nouveau nom de Renaissance, vous savez ce que ce serait ?
La Nouvelle République.
La Nouvelle République, mais ça existe déjà, la Nouvelle République. C'est un journal. Donc, il va probablement aller à autre chose. Je choisis, alors, le Rassemblement du Mouvement Citoyen, le RMC. Merde, ça s'est pris
encore aussi.
Bon alors, le mouvement ouvrier, social, citoyen, antiraciste et très organisé, le Moscato. Mais ça existe aussi déjà, ça. Donc ce soir, il organise sa nuit de la Nouvelle République au Palais Brongniart avec des tables rondes, des débats. Et alors parmi les tables rondes, c'est vrai, ce soir, il y a un vrai débat intitulé « Faut-il tout péter pour refonder la France ?»
Ouais. Voilà.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies.
Voilà, mais les centristes, ils ont déjà tout pété. Le droit du travail, la dette, nos espoirs en l'avenir. Macron doit être désespéré. Il veut tout péter. Mon fils spirituel est devenu un voyou, un punk du centrisme. Ben oui, maintenant je m'appelle le spectre du bitume et je vais tout casser en m'excitant, en écoutant du Vianney. Allez, envoyez le champomy. On va voir tout ça avec Kalash le régulateur à
8h30. Alias Gabriel Attal, il est 7h27. A tout de suite pour la météo, le journal sur RMC. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des installations de fortune, une nouvelle mousse installée peu de temps avant l'incendie, les dernières révélations dans l'affaire de Cran Montana et cet enregistrement qui contredit la version donnée par le patron du bar aux enquêteurs. Amine Kessassi, candidat au municipal à Marseille, aux côtés du maire sortant Benoît Payan, et puis plus de 4 Français sur 10 vont au travail, même quand ils sont malades. Un choix qui n'a rien de vertueux sur le long terme.
de nouveaux éléments accablants dans l'affaire de Crans-Montana.
Près d'un mois après l'incendie qui a fait 40 morts dans un bar de cette petite station suisse, on en sait plus ce matin sur ce qu'ont déclaré les patrons de l'établissement face aux enquêteurs la semaine dernière, et notamment Jacques Moretti, libéré sous caution samedi. Le gérant assure qu'il n'y avait aucun problème avec la mousse acoustique qui a pris feu le soir du Nouvel An. Une version mise à mal, Romain Houg, par ses échanges téléphoniques et vidéos que BFM TV s'est procuré.
Oui, ce sont des vidéos envoyées à peine deux semaines avant le drame par Gaëtan, l'un des serveurs blessés dans l'incendie, à son patron Jacques Moretti. Vidéo dans lesquelles le jeune homme installe la mousse acoustique au plafond en essayant de la faire tenir avec un système D étonnant. Des queues de billard surmontées de paquets de serviettes. Certaines plaques se décollent du plafond. Peu convaincu, il envoie la vidéo à Jacques Moretti qui lui répond par un message audio.
Ouais, Gaëtan, essaye d'en enlever une, tu vois si ça tombe, parce que j'ai mis une mousse, mais une mousse que je connais pas. Donc dis-moi si c'est bon. Dis-moi si elle tombe ou pas.
Des mousses que je ne connais pas, dit le propriétaire, pourtant devant les enquêteurs la semaine dernière, alors qu'il était interrogé sur la dangerosité du produit. Jacques Moretti répond ne pas avoir vu de contre-indication à l'installer. Il assure même avoir fait un test en brûlant la mousse à l'aide d'un chalumeau. Le seul truc qui m'a dérangé, dit-il, c'est la fumée. Il y en avait vraiment beaucoup. Sinon, rien ne m'a choqué, a-t-il certifié aux enquêteurs.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Il est 7h32 et c'est un atout de taille pour la campagne des municipales de Benoît Payan à Marseille. L'actuel maire a été rejoint hier par le militant Amine Kessassi, figure de la lutte contre le trafic de drogue qui a emporté directement et indirectement ses deux frères, dont le plus jeune Mehdi, qui a été abattu en pleine rue en novembre dernier. Et il l'a dit hier, il veut faire de Marseille une vitrine de la lutte contre le narcotrafic.
Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on porte. Ce qu'on porte, c'est de faire Marseille de la vitrine nationale de la lutte contre le narcotrafic en matière d'accompagnement des familles victimes. On va être la ville qui va accompagner toutes ces mamans endeuillées. Ça, c'est évident, je veux m'engager, je veux porter des choses, je veux être aux côtés de celles et ceux qui font. Et puis, sur la question de la peur, de quoi voulez-vous que j'ai peur ? On a déjà tué mon petit frère, on a déjà assassiné, brûlé, calciné mon grand frère Brahim. De quoi voulez-vous que j'ai peur ?
7h33, c'est une étape majeure, se félicite Emmanuel Macron ce matin après l'adoption cette nuit de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et du téléphone portable dans les lycées. Le texte arrivera au Sénat dans les prochaines semaines. Vote salué également par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. C'est son groupe parlementaire qui est à l'origine de cette proposition de loi. Et ce soir, le chef des députés Ensemble pour la République va faire un pas de plus dans la course à la présidentielle en réunissant intellectuels, élus locaux et partenaires sociaux, Sébastien Krebs.
Oui, l'agenda se précise et il accélère même. Il y a cette soirée de réflexion ce soir avec diverses personnalités, Michel-Édouard Leclerc, Alain Finkielkraut, Marie-Lise Léon, une première pierre. Mais Gabriel Attal mise surtout sur l'après-municipal, des élections qu'il semble enjamber et pour cause il sera difficile pour les macronistes de revendiquer beaucoup de victoires. Alors au lendemain du scrutin, il sortira son livre, annoncé comme très personnel, et il envisage de se déclarer candidat avant l'été. Le parti Renaissance va aussi changer de nom, c'est devenu son agence de com', raille Elisabeth Borne, preuve que l'ancien Premier ministre doit encore rassembler son camp. Les gens ne savent plus comment on s'appelle ni ce qu'on défend, pointe une macroniste historique. Gabriel Attal, lui, veut assumer un droit d'inventaire sur les deux quinquennats, mais certains de ses alliés craignent que le sparadrap Macron soit encore difficile à décoller.
Et je poserai justement la question à Gabriel Attal, puisqu'il est mon invité à 8h30 dans le face-à-face tout à l'heure.
Apolline, vous êtes fidèle au poste ce matin, malgré un gros rhume, comme 43% des Français qui, selon une enquête Obera, travaillent même quand ils sont malades. Vous l'avez constaté à Marseille, Anna Jojard, mais cette conscience professionnelle n'est pas sans conséquence.
Quand il tombe malade, Nathanaël décide d'aller chez le médecin ou non en fonction de l'intensité de ses symptômes.
Si j'ai un petit rhume, un truc comme ça, j'y vais quand même, je prends un Doliprane, je prends un petit truc. Mais par contre, quand je suis trop malade, je fais un arrêt de travail.
L'arrêt de travail, Maha Caissière fait tout pour l'éviter et ne pas perdre des jours de salaire.
Vitamine C et je vais au travail. Parce qu'il y a 3 jours de carence et quand on a un rhume, c'est toujours 3 jours. 3 jours, on n'est pas payé quoi en gros.
Même chose pour Sabrina, infirmière, qui avoue avoir déjà travaillé dans un état plus que fébrile.
Avec mes antibiotiques, que ça, parce que je pouvais pas me permettre de rater le boulot parce que c'était pas pris en charge. Au niveau salaire, comment on fait ? C'est la crise, le moindre sou, c'est le moindre sou.
Mais travailler malade n'est pas sans conséquence pour ses collègues et pour soi-même, explique Saïd. Saïd Ouichou, médecin généraliste.
En continuant à travailler, il va s'exposer à des risques, il va surtout contaminer ses collègues. Les gens, quand ils nous arrivent, ils sont très malades, parfois pour certains dans un état d'épuisement, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter.
Et le risque de l'épuisement, selon ce médecin, c'est qu'il peut mener au burn-out et donc à un arrêt de travail beaucoup plus long.
En ski alpin, une dernière carte à abattre pour Alexis Pinturo qui n'a pas été sélectionné parmi les 7 skieurs français qui participeront aux prochains Jeux d'hiver. Mais une 8e place surprise a été allouée aux Bleus hier soir et les dés sont relancés. On y revient dans le journal de 8h.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 3, Pure Atlas. L'outsider, c'est le 12, Cameron.
C'était le journal d'Élise d'Angers, 7h36 sur RMC. Jérémy nous a appelé au 3216 du Nord. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Jérémy, vous vouliez réagir à ce permis de conduire qui ne pourra plus être financé par le CPE, le compte personnel de formation. Vous avez fait comment vous, Jérémy?
Alors, moi en fait, il y a 6 mois, j'ai donc utilisé ce CPF pour passer mon permis.
Ouais.
Et donc j'ai fait mes 20 heures. Là, on me demande de prendre au moins, au minimum 10 heures, et il va falloir que je paye tout de ma poche parce que là, directement sur les sites, on peut même plus, on ne peut plus faire de devis pour les auto-écoles, on ne peut plus rien faire en fait.
Ah oui, donc vous avez encore des sous sur votre CPF?
Ah oui, j'ai plus de 3000 euros sur mon CPF.
Simplement,
donc,
simplement, on vous bloque, vous ne pouvez plus l'utiliser pour le permis.
Voilà, c'est ça.
Non,
donc
mais
moi,
ça...
professionnellement, ça va même me bloquer dans mes
évolutions. Vous faites quoi dans la vie, Jérémy?
Je suis agent logistique.
D'accord. Et vous allez comment au travail aujourd'hui?
Là, actuellement, je vais en vélo, mais bon, je compte évoluer professionnellement, donc me déplacer un peu plus loin. Et donc, ça va être compliqué, quoi. Il va falloir que je dépense, que je paye des heures à gogo.
Non, mais ce qui est effectivement rageant, c'est de voir que vous avez 3000 euros sur le compte et que vous pouvez pas les débloquer.
Voilà, c'est ça.
Et vous allez les utiliser pourquoi, du coup, ces 3000 euros en plus?
Ah, pour faire une formation au Glory, peut-être?
Ouais, non, mais c'est ça, c'est, en fait, c'est ridicule. Vous avez besoin d'une formation, vous étiez déjà dedans, et ça vous bloque. Bon, essayez de vous concentrer beaucoup pour faire moins de 10 heures. Peut-être 5 heures de plus.
On va essayer, on croise les doigts.
Faut pas perdre de temps entre les différents cours. C'est mon seul conseil. C'est celui que je donne à mon fils. Voilà. Faut les enchaîner, les cours. Faut faire que ça, et hop, vous en faites tous les jours pendant une semaine, et ensuite, tac, le permis. D'accord, Jérémy?
Pas de soucis.
Vous nous appellerez quand vous l'aurez eu?
Il n'y a pas de soucis.
Allez, on croise les doigts pour vous. Merci Jérémy, en tout cas, d'être passé par le 32-16. Il est
7h38. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et vous l'avez constaté sur le ticket de caisse, ça repart à la hausse. Je parle bien sûr des prix à la consommation, plus 1,7% en janvier. C'est le baromètre Circana que vous publiez cette semaine. Yves Puget, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le magazine LSA qui est spécialisé dans la consommation. On va regarder avec vous ce qui monte. Et surtout, comment les Français s'adaptent? Quels conseils vous pouvez donner à tous ceux qui nous écoutent pour faire leurs courses intelligemment? Est-ce que nos habitudes ont changé? Est-ce que vous, qui nous écoutez, vous consommez différemment? Je vous attends au 32-16 pour venir nous raconter ce que vous mettez ou ne mettez plus dans le caddie. Il est 7h39, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC et sur RMC Story. Au secours, l'inflation revient. Vous l'avez peut-être constaté en allant faire vos courses, 1,7% en janvier. C'est ce que vous révélez avec l'Institut Circana. Yves Puget, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialisé dans la consommation. Plus 19% sur le chocolat, plus 27% sur le café. Des hausses, un peu plus mesurées, mais tout de même sur la viande rouge, sur les boissons sucrées. Comment on explique ce retour de l'inflation?
J'ai envie de dire, il y a ceux qui pensaient qu'on allait vers de la déflation et il y a ceux qui ont toujours dit que de toute façon, on garderait un peu d'inflation. L'important, c'est de ne pas retrouver les taux d'inflation lorsque c'était quasiment 20% en un an et demi. On est sur de l'inflation raisonnable. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la matière première, contrairement à ce que tout le monde croit. Dans un produit, il y a également le transport, la fabrication, l'emballage et les salaires. Donc c'est l'ensemble de tout ça.
L'ensemble de tout ça, on va essayer de regarder précisément produit par produit. Un produit de consommation courante pour tous les Français, le café. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai quand même l'impression que mon paquet de café, je prends toujours le même depuis des années, il a doublé en réalité en 4 ans. Il a quasiment doublé en 4-5 ans.
Ça doit être vrai, oui.
C'est
dur, mais ça doit être vrai, parce que je bois aussi beaucoup.
Quand on dit 27% sur le café, ça s'ajoute aux années précédentes. Je vous dis, moi, il est passé de 2 euros à 4 euros.
Oui, alors j'avoue ne pas connaître par cœur le cours du café, mais je vais vous donner l'exemple du chocolat. Le chocolat était en 2019 à 2 300 $ la tonne. C'est monté en 2024 à 11 000 $. C'est retombé à 4 600 $. Donc oui, ça a baissé, mais c'est encore plus haut qu'en 2019. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, il y a le cours du chocolat, du cacao, au moment où l'industriel achète le produit, et il y a le cours au moment où l'industriel le vend au distributeur. Et entre-temps, il a pu se passer 6 mois.
Alors, donc, avant de donner des cours, conseils à ceux qui nous écoutent, un point quand même sur quelques baisses, parce qu'il y en a. Il y a des baisses sur le sucre, sur les huiles et sur certains produits ménagers. Vous confirmez ?
Je confirme.
Donc la ça, farine, pourquoi ça baisse alors que les autres montent ?
Parce que les marchés ne sont pas les mêmes, parce que la demande n'est pas la même. Si on va sur la viande rouge, par exemple, qui continue de monter, il y a un problème de cheptel en France. Le cheptel a diminué. C'est une des explications.
Moins. Nos agriculteurs produisent moins. Ils s'en plaignent d'ailleurs. Ils aimeraient bien produire plus, mais ils disent qu'on leur met des bâtons dans les roues.
Et le coût de la nutrition pour les animaux a augmenté également. Donc ça pose un souci. Donc le problème, c'est que tout le monde veut une solution, j'ai envie de dire simpliste, pour dire c'est pas raisonnable. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'explications et on est dans un monde très complexe.
Sur chaque, effectivement, secteur, j'allais dire, il y a des explications différentes. On est en plein dans les négociations commerciales, c'est jusqu'au 1er mars, entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. Est-ce qu'on sait un peu la tendance de cette année ?
Bah, la tendance, et j'ai envie de dire la première tendance est la même depuis 50 ans, c'est que c'est tendu. Ça, c'est la première tendance. Après, je pense que ça sortira avec un petit peu d'inflation, parce qu'il y a encore des coûts qui augmentent, mais avec de grosses disparités. On le voit dès ce mois-ci, les chiffres que vous avez énumérés, effectivement, il y a des baisses à moins 5 et il y a des hausses. Donc il va y avoir des écarts très importants entre
comment
les baisses.
On s'y retrouve ? Quels conseils vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent pour pouvoir effectivement maîtriser les coûts?
Alors, le premier conseil, les Français commencent à l'adapter depuis quelques années, j'ai envie de dire, au moins depuis le Covid, et c'est une très bonne chose, commencer par moins gaspiller. C'est la première chose. Il y a des aliments qui sont dans votre réfrigérateur, ils peuvent encore se consommer, il suffit de les recuisiner. Le moindre gaspillage est déjà la première source d'économie. Après, c'est la comparaison, et on voit de prix, et on voit des Français qui zappent de plus en plus entre formats. Avant, ils étaient assez monolithiques, c'est-à-dire...
Ils reprenaient toujours les mêmes produits, oui, voilà, caddie après caddie.
Et c'était leur magasin. Aujourd'hui, le ticket moyen est de plus en plus faible et les fréquentations de plus en plus importantes. Pourquoi ? Parce que les Français hésitent à faire un chariot complet. Je rappelle tout simplement que le taux d'épargne...
Donc on préfère y retourner plusieurs fois, voilà, mais pour des plus petites quantités.
On est un petit peu effrayé de temps en temps par le prix d'un chariot complet.
Vous évoquez le taux d'épargne. Kat nous dit, je ne sais pas comment font les gens pour épargner. L'inflation, ça n'arrête pas une seconde. J'arrive pas à mettre de côté. Pensez aux familles monoparentales, nous dit Kat. J'ai Lily qui nous écrit, j'achète des paniers anti-gaspi. Je consomme moins de viande. Beaucoup de messages nous disent ce matin, moins consommer de viande, en tout cas de viande rouge, le veau, l'agneau, ça reste assez cher. On se reporte sur le porc et la volaille. J'ai Romuald qui nous dit, on nous dit de consommer français, de s'habiller français, de prendre notre pain chez le boulanger. Mais tout ça, c'est devenu impossible, nous dit Romuald. Et puis Olivier qui nous dit, bien entendu, que l'inflation revient. Ça n'a si peu baissé. En fait, faut regarder les prix au kilo, nous rappelle Olivier. Et là, vous constaterez les hausses concrètement.
Et par contre, il y a un retour de la qualité. Le bio, qui était vraiment dénigré par les Français parce que trop cher et finalement pas si intéressant, revient progressivement.
Progressivement et même certains fortement, il y a des enseignes bio qui sont à plus 10. Mais je vais vous donner une mauvaise nouvelle, la ménagère de moins de 50 ans a été tuée il y a une quinzaine d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas une moyenne du français. Vous avez des Français qui sont vraiment dans la difficulté. Ceux-là, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut répondre à leurs problématiques. Il faut répondre par des produits d'appel pas trop chers parce qu'ils ont vraiment des problèmes de fin de mois. Mais c'est pas le cas de tous les Français. Il y a un autre tiers des Français, bah, ils achètent un petit peu plus de marques de distributeurs, ils vont un petit peu moins dans une enseigne de centre-ville.
Mais ils ont aussi les moyens de se faire plaisir ou de prendre des produits de qualité.
Et il y a un tiers des Français, et il faut quand même le dire, ils n'ont pas de problème de fin de mois.
Donc c'est ceux-là, magasin aussi de s'adapter.
Ceux-là, ils se remettent vers de la valorisation, vers des produits sains, vers des produits bio, etc.
Un mot aussi sur le carburant. Ils repartent certes à la hausse depuis le 1er janvier de 4 à 10 centimes, mais sur un an, ils sont quand même clairement en baisse.
Ils sont en baisse pourvu que ça dure, parce que ça pèse lourd dans le panier des ménages et ça rentre maintenant totalement dans les dépenses contraintes. C'est aussi ça qui est, je veux dire, difficile à comprendre, c'est que les dépenses contraintes ont fortement augmenté.
l'essence, mais également donc les loyers, le gaz, l'électricité, les abonnements à je ne sais combien de chaînes de télé ou téléphoniques, et ces dépenses contraintes, ben après on dit il reste plus rien et on dit que c'est l'alimentaire qui a augmenté.
Et une question aussi sur les habitudes du e-commerce, c'est-à-dire faire ses courses sur internet, se faire livrer. Moi, j'ai constaté que ça me permettait de effectivement de faire des plus petits caddies, c'est-à-dire que je fais plus attention quand je choisis sur internet ou sur une application du téléphone que quand je suis dans les rayons et que du coup je suis tentée de prendre davantage. Est-ce que ça, quand on voit que 30% des dépenses désormais c'est par internet, c'est aussi l'habitude des Français?
Mais internet, notamment pour l'alimentaire, vous ne succombez plus à la tentation.
Voilà.
Il n'y a plus le produit d'appel que vous allez prendre, le produit d'impulsion. Et effectivement, donc vous allez gagner sur les produits d'impulsion. Après, je suis pas sûr qu'il y ait exactement autant de promos. Donc, est-ce que vous allez y gagner dans tous les systèmes promotionnels qui, dans la grande distribution, sont toujours très complexes à comprendre?
Réponse donc aussi le 1er mars à la fin de ces fameuses négociations commerciales qui ont lieu en ce moment. Merci de nous avoir aidé à y voir plus clair. Yves Puget, vous êtes le directeur de la rédaction du magazine LSA spécialisé dans la consommation. Il est 7h50 et pendant ce temps-là, notre voix de gauche vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, un peu d'optimisme ce matin. Les Français sont fiers de leur pays et ça vous réjouit.
Ils sont très fiers de leur pays. Ils sont très fiers d'être Français. Et on va en parler en détail.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51 et vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, Cécile Duflo, mais d'abord le bonus, Mathieu, Robbie Williams qui bat encore des records.
Ah, et l'occasion de réécouter quelques-uns de ses tubes. À 51 ans, il vient de publier un 16e album, ça s'appelle Britpop, le 16e de la carrière de Robbie Williams. J'insiste sur le 16 parce que c'est pas un détail. Il devient cette semaine le premier artiste à atteindre les 16 albums classés numéro 1 des classements officiels britanniques. Et ce faisant, il ne dépasse pas n'importe qui. Les Beatles et leurs 15 pauvres petits albums numéro 1. Pour un Anglais, battre un tel record, c'est pas rien. Un album hommage à la Britpop, la musique anglaise, la Britpop des années 90, Oasis, Blur, Pulp. Robbie Williams qui bat des records depuis ses débuts avec le boys band Take That. Et le compteur qui tourne toujours.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et comme tous les mardis, la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflo. Rebonjour Cécile. La France est un pays fragmenté, c'est ce qu'on entend souvent, mais c'est une idée reçue d'après vous.
Oui, la France se pense divisée, on a entendu tout un tas de chiffres, mais la réalité, c'est qu'il y a une très grande enquête qui a été menée par Destin Commun, 3000 personnes interrogées, plus plein d'entretiens, et qui montre des résultats très concrets. 93% des Français sont fiers de nos paysages, 92% sont fiers de la gastronomie et du patrimoine historique, 87% de la langue, des arts et des traditions régionales.
Donc les Français sont fiers d'être Français.
Exactement, sont même fiers d'être Français eux-mêmes, ils le disent très largement. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est toutes les générations, c'est toutes les sensibilités politiques, c'est vraiment très très partagé. C'est plus de 8 personnes sur 10 qui sont fiers d'être Français.
Si on décortique, est-ce que c'est vraiment la même façon de le ressentir dans chaque génération, chaque groupe français?
Oui, et puis pour dire les choses, le sous-entendu de tout ce débat sur la fracture française, c'est que les gens qui sont de familles issues de l'immigration seraient un peu différents. Et ils ont donc décortiqué entre ceux qui ont un parent étranger, même pas un grand-parent, un parent étranger, et ceux qui n'ont pas de parent étranger. Et bien là, les chiffres sont exactement les mêmes, mais vraiment à un point près sur cette fierté et cet attachement au patrimoine français. Et c'est tout à fait pareil quand on regarde les moments historiques. Les moments historiques qui sont les moments les plus importants pour les Français, c'est d'abord la Seconde Guerre mondiale, mais ensuite, et c'est là que c'est intéressant, ce sont de grandes avancées sociales. C'est la création de la sécurité sociale et c'est les lois pour les droits des femmes. Voilà ce que les Français considèrent comme les événements historiques les plus importants. Et puis pour le reste, les Français font du sport, vous en avez parlé déjà ce matin et vous allez continuer à en parler, et notamment la moitié ont fait un sport collectif et plus de 60% des Français participent aux fêtes de leur village et de leur quartier.
Donc c'est des moments aussi ensemble et collectifs. Pourtant, quand on entend effectivement dans certains médias, mais y compris certains chercheurs, qui nous parlent de l'archipélisation, ce serait caricatural?
Je pense que c'est très caricatural et que paradoxalement, ça renvoie aussi et ça alimente le fait que les Français ont le sentiment d'aller dans la mauvaise direction, d'être divisés, parce que justement ces chiffres-là, cette façon de raconter la France, bah, ça crée un sentiment d'insécurité. Alors que si on enlève ce filtre politique et qu'on s'intéresse aux Français eux-mêmes, on voit bien qu'ils se sentent finalement assez unis. Mais il y a une explication dans cette enquête qui peut peut-être expliquer pourquoi on aboutit à ce résultat de mécontentement par rapport à la situation, parce que quand on demande aux Français de définir ce qu'ils sont, ils répondent à 92% râleurs.
Ils sont lucides, les Français.
Et ensuite, juste quasiment à égalité, bon vivant. Mais là où c'est drôle, c'est que si on leur demande si ça s'applique à eux, ils se définissent pas comme râleurs, c'est
non,
50%.
Toujours les autres.
Exactement. Et donc en fait, le vrai patrimoine que les Français ont en commun, c'est l'humour. Ça se voit sur les films préférés des Français, tous sans exception, toutes les générations, ce sont des comédies. Ce sont des comédies, et notamment pour les moins de 35 ans, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Bah,
je pense
oui.
qu'on peut pas faire une meilleure synthèse de la France.
J'ai d'œuvre.
Donc à tous ceux qui pensent que la France est un pays divisé et fracturé, j'aurais envie de leur répondre. Viens me le dire de profil, si t'es un homme.
Cécile Duflo, il est 7h55. Demain, ce sera La Voix de Droite. Louis Sarkozy, dans un instant, le journal de 8h. Et c'est une exclusivité RMC. Cécile en parlait à l'instant. 3 Français sur 4 font du sport régulièrement. Garder la forme, se sentir bien. On a rencontré des amateurs de la course à pied, notamment. Et puis, côté météo, Géraldine nous le dira, c'est une journée encore très pluvieuse. On va aussi parler économie juste après le journal avec Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
L'or, définitivement, un métier, un métal précieux.
Et oui, il bat tous ses records. Alors, est-ce qu'il faut continuer à en acheter? Est-ce qu'il faut continuer à en acheter? Si vous voulez en acheter, comment on fait? Et puis, si vous en avez et que vous voulez vendre, comment vous faites aussi?
Tous les conseils du docteur Le Chypre, ce sera juste après le journal de 8h. Il est 7h56, restez bien avec nous.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h58 et on regarde évidemment la pluie du côté de la Bretagne, Géraldine.
Et oui, mais si ce sera un peu plus calme aujourd'hui parce qu'il y aura des éclaircies, on est toujours en vigilance orange pour les crues de l'Audé, de la Laïta, du Blavé et de l'Oust. Donc plus calme parce qu'il y aura des éclaircies, mais il y aura quand même aussi de la pluie, des averses en tout cas en Bretagne avec pas mal de vent et la pluie qui va traverser tout le pays d'ouest en est. D'ailleurs, cette pluie, quand elle va arriver sur le sud-est, elle va être intense ce soir sur les Alpes-Maritimes en particulier. On pourrait avoir de gros cumuls, donc ça va être à surveiller. Et on aura aussi de la neige qui va tomber à très basse altitude, parfois à des 500 mètres. Les températures toujours très contrastées entre l'est et l'ouest, avec des gelées dans l'est ce matin, mais 16 degrés à Biarritz. Et cet après-midi, on gardera toujours ce temps contrasté avec 6 degrés à Lille, 10 à Paris, 11 à Lyon, Bordeaux, 13 à Nice, 15 degrés pour Marseille. Et on n'a pas fini d'entendre parler de la pluie, puisque les perturbations vont continuer de se succéder dans les prochains jours. Et la Bretagne donc sera à nouveau touchée par de fortes pluies à partir de jeudi.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On vous accompagne au sport ce matin parce que de plus en plus de Français font du sport. On vous dévoile sur RMC des chiffres en exclusivité. 72% des Français pratiquent une activité physique et particulièrement la course à pied. On va vous expliquer dans ce journal pourquoi la fin des ZFE n'est pas pour tout de suite. Le gouvernement reporte le vote qui devait les supprimer. Et on va vous expliquer aussi le psychodrame du moment dans le ski français à 10 jours ce matin des Jeux Olympiques d'hiver.
Et vous alors, est-ce que vous faites partie des Français devenus accros au sport?
Cette question, parce qu'on dévoile ce matin sur RMC les derniers résultats du baromètre Sport Santé. Baromètre qui nous apprend que 72% des Français pratiquent une activité physique. Chiffre en hausse depuis le Covid, avec en plus un effet JO. Vous avez forcément constaté le nombre de Français qui se sont mis ou remis à courir là ces derniers mois. Il y a 13 millions de Français qui pratiquent la course à pied, nous dit Martin Bourdin pour RMC.
La respiration bien synchronisée avec la foulée n'empêche pas Alice de souffrir après 7 km.
Oui. Là, c'est mon record. Là.
Et c'est presque le meilleur moment de la semaine pour cette étudiante.
C'est vraiment un exutoire vraiment assez complet. Je suis en prépa, donc je suis quand même assez sédentaire. Je peux pas faire plus de 3-4 jours sans faire de sport, quoi.
Courir uniquement pour le plaisir change aussi les journées de tous ces adeptes nombreux à chausser leurs baskets sur la pause de midi.
On est plus efficace dans sa journée, l'énergie de sa journée change.
La course attire de plus en plus, ça se voit sur les chemins de ce bois.
Franchement, il y a un monde de dingue. Si vous venez pas avant 10h ici, en fait, on croit qu'il y a déjà une course, tellement il y a de monde.
Ça se voit aussi dans les magasins de sport. 9 millions de paires de baskets vendues en 2024, notamment parce que les Français ont changé leur façon de faire du sport, décrypte Virgile Caillé, le délégué général de l'Union Sport et Cycle.
Aujourd'hui, c'est la multi-activité. Nous ne sommes plus les sportifs d'un seul sport. On s'autorise à faire un peu de running, à aller jouer au foot à 5, à aller faire du tennis. Et donc, forcément, ça guide aussi un peu le marché.
Un marché qui pèse lourd, 1 milliard 200 millions d'euros pour la course à pied, d'après l'Observatoire du running, deux fois plus que pour le foot, par exemple.
Les réseaux sociaux, c'est bientôt fini pour les moins de 15 ans. C'est l'information qui est tombée cette nuit. L'Assemblée a voté pour leur interdiction. Il était vers 1h du matin. Une étape majeure, salue Emmanuel Macron, avant le passage de cette proposition de loi au Sénat, certainement à la mi-février. En revanche, la fin des ZFE, eh bien ça attendra. Un vote était prévu cette semaine à l'Assemblée nationale pour supprimer ces zones qui restreignent la circulation des véhicules les plus polluants. Vous savez, dans certaines villes comme Paris, Lyon aussi. Mais le gouvernement a décidé dans la soirée, eh bien, de reporter le vote à plus tard, sans doute après les municipales, ce qui met en colère les députés opposés à ces ZFE. Vous les avez interrogés pour RMC, hein, Cyprien Pézeril.
Oui, colère des opposants aux ZFE. Ici, le député RN Pierre Meurin qui se filme pour les réseaux sociaux au volant de sa voiture.
Et le gouvernement peut, par une décision technocratique, voire dictatoriale, s'asseoir sur les travaux du Parlement.
Discours relayé par son collègue à l'Assemblée, Laurent Jacobelli.
Dommage que le gouvernement refuse l'obstacle, parce que ces ZFE, c'est véritablement une forme de ségrégation sociale. On interdit à ceux qui ont des vieilles voitures d'aller dans les centres-villes.
Maintenir le vote, c'était envoyer le texte au casse-pipe, faute de majorité, justifie un ministre. Le combat n'est pas terminé pour obtenir la suppression de ces zones, prévient l'insoumis Adrien Clouet.
Nous allons nous battre. Les ZFE doivent disparaître en France. Soit le texte arrive et on l'utilise pour le supprimer, soit le texte n'arrive pas et on est majoritaire pour les virer par un autre véhicule législatif, un autre texte de loi. Il y a une majorité pour mettre fin à une pratique, les ZFE, qui n'a jamais aucunement prouvé ses résultats en matière écologique.
Soulagement en revanche des pros ZFE, ce report permettra peut-être à la raison de revenir, réagit la macroniste Agnès Pannier-Runacher. Pour l'instant, le gouvernement n'a arrêté aucune nouvelle date de vote.
Du nouveau, tiens, ce matin, dans la course à la présidentielle de l'année prochaine, François Ruffin participera bien à la primaire de la gauche qui sera organisée le 11 octobre prochain. On se demandait qui en serait à cette primaire après les refus de Jean-Luc Mélenchon et de Raphaël Glucksmann. Hier matin, il le disait sur RMC. Drôle d'ambiance, tiens aussi. On en parle ce matin au Parti Renaissance. Gabriel Attal organise une soirée aux aires de campagne ce soir à Paris. Il sera d'ailleurs l'invité d'RMC ce matin à 8h30. Outil de communication personnel, tacle Elisabeth Borne qui ne participera pas à cette soirée. Il est 8h04 sur RMC. La pluie a enfin cessé ce matin en Bretagne. Il ne pleut plus, mais l'eau, et c'est bien le souci, l'eau continue de monter. L'Ille-et-Vilaine, le Finistère, le Morbihan restent en vigilance orange pour les crues, avec ces cours d'eau qui débordent par endroit depuis plus d'une semaine. C'est le cas par exemple dans la ville de Malétroit. Marion Gauthier a interrogé ce matin Michel, un habitant. Écoutez-le au micro d'RMC.
Je regarde tous les jours la hauteur d'eau. Ça baissait un peu.
Ça vous rassure ?
Ça dépend combien de millimètres tombe dans la journée. Il y a de l'eau jusqu'au 5 février. Ça va être long, hein, la décrue. Oui. Il pleut 10-20 mm, ça va aller. Hein. Et si, admettons qu'il pleut 40 mm, ça peut être grave. Il y a quand même toujours un volume d'eau. Hein. Puis c'est plein partout. Surtout qu'il y a des marées cette semaine. On peut être inquiet quand même. Hein.
Après le Mercosur, dont on a énormément parlé, c'est avec l'Inde que l'Union européenne vient de conclure, là, ce matin, un accord commercial. Il prévoit une réduction drastique des taxes indiennes sur la quasi-totalité des produits européens importés en Inde, en particulier celles qui frappaient durement, d'ailleurs, les voitures, le vin. Ça concerne donc le vin français et les pâtes aussi. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, salue ce matin l'avènement d'une zone de libre-échange de 2 milliards de personnes. Les dirigeants du Danemark et du Groenland entament une tournée des capitales européennes. Ils seront reçus demain à Paris par Emmanuel Macron pour remercier en fait les dirigeants de l'UE d'avoir fait bloc face aux menaces de Donald Trump. Et alors ce matin, les regards se braquent sur le Moyen-Orient parce que ça y est, Antoine Hollard, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Ça y est, les Américains ont positionné leur bateau de guerre au large de l'Iran en pleine répression sanglante.
Oui, c'est un peu plus que des épreuves de Coupe du Monde qui se jouent à Chladming. Deux courses vont décider quel skieur va obtenir in extremis son billet pour les JO. Ce soir, le géant, deux skieurs en lice, Thibaut Favreau et Alexis Pinturo. Et demain, le slalom avec Victor.
Bien, on va retourner au Moyen-Orient avec les États-Unis qui viennent de déployer leur fameuse armada maritime dont on parle depuis plusieurs jours en pleine répression sanglante en Iran. Antoine Hollard, aux États-Unis donc pour RMC. Antoine Hollard, ça y est, Donald Trump fait pression en fait. Hein.
Oui, Donald Trump montre les muscles. Il évoque une grande armada qui arrive au Moyen-Orient. Il s'agit du porte-avions Lincoln, 5000 marins à bord, 90 aéronefs. Il est accompagné par 3 navires de guerre, équipés notamment de missiles Tomahawk. Le Pentagone, par ailleurs, a déployé des avions de combat supplémentaires dans la région. Alors, il y a une quinzaine de jours, on pensait que les frappes américaines étaient imminentes. Trump, finalement, n'a pas appuyé sur le bouton, notamment parce que les Américains n'avaient pas suffisamment de moyens sur place pour mener ces frappes et surtout pour défendre les bases américaines qui seront prises pour cible en représailles. Trump a désormais toutes les cartes en main et il a plusieurs choix possibles. Il peut décider de lancer une attaque. De nouveaux plans d'action lui ont d'ailleurs été présentés. Mais il peut aussi essayer de conclure un deal avec les Mollahs, un accord pour mettre fin au programme nucléaire iranien. Trump assure que Téhéran veut discuter. Il se dit lui-même ouvert à ces négociations. Et dans ce cadre, eh bien, ce déploiement de force ne serait finalement qu'une façon de mettre une pression maximale sur le régime.
Bon, et puis cette question, le meilleur skieur français de l'histoire, Alexis Pinturault, va-t-il participer aux Jeux Olympiques d'hiver qui commenceront dans 10 jours à Milan Cortina? C'est la question qu'agite en ce moment le monde du ski alpin. Alexis Pinturault ne faisait pas partie de la liste des 7 skieurs retenus qui a été dévoilée hier. La France a moins de place que prévu, ça fait des déçus forcément. Mais contre toute attente, une 8e place a été débloquée dans la soirée. Ça relance tout. Virginie Fulpin, vous nous dites ça depuis très tôt ce matin sur RMC. C'est donc la dernière occasion pour Alexis Pinturault de se qualifier. Ça va se jouer aujourd'hui et demain sur des courses en Autriche.
Oui, c'est un peu plus que des épreuves de Coupe du Monde qui se jouent à Schladming. 2 courses vont décider quel skieur va obtenir in extremis son billet pour les JO. Ce soir, le géant, 2 skieurs en lice, Thibaut Favreau et Alexis Pinturault. Et demain, le slalom avec Victor Muffat-Jandet, l'un de ces 3 skieurs a le ticket gagnant. Ça fait 4 ans que les skieurs se préparent pour les JO et tout se joue sur une course. C'est la conséquence des quotas établis par la Fédération internationale de ski. Un nombre de places accordées à chaque nation en fonction des résultats. Pour la France, c'était 7 chez les hommes jusqu'à hier soir, puis finalement 8. Ça reste peu, mais c'est pour faire de la place à des pays émergents. Le Brésil, par exemple, on lui accorde 3 places alors qu'il n'y a qu'un seul skieur de haut niveau dans le pays. Ça explique l'agacement de Victor Muffat-Jandet qui parle de ses quotas comme d'une injustice.
Et puis la France rejouera demain contre l'Allemagne à l'Euro de handball. Victoire obligatoire pour les Bleus après leur défaite surprise hier soir contre l'Espagne 36-32 au tour principal.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 et on va parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Emmanuel, les cours de l'or battent un nouveau record.
Oui, alors la première question, est-ce que c'est intéressant d'acheter toujours de l'or? Il vaut désormais plus de 5 100 $ l'once. L'once, c'est 31 grammes, je rappelle. Pour un lingot de 1 kilo, c'est 136 000 euros. Songez que les cours ont doublé en un an. Et là, en général, qu'est-ce qu'on se dit? On dit, bah, attendez, c'est pas possible. Il y a une folie, il y a une spéculation. C'est surtout pas le moment d'en acheter parce que les cours vont finir par s'effondrer à un moment ou à un autre. Donc, on n'investit pas. Ce serait sans doute une erreur. Ce serait sans doute une erreur parce qu'il y a des raisons structurelles à cette hausse de l'or, au-delà des tensions géopolitiques, au-delà de la baisse des taux d'intérêt américains, par exemple. Il y a la demande physique qui est là pour la bijouterie, pour la technologie, pour les banques centrales qui reconstituent des réserves de métal jaune. Ça, c'est structurel. Et puis, il y a la recherche de valeurs refuges, face à la dette colossale des grands États qui n'est pas prêt de se résorber. Tout ça fait douter de leur capacité à rembourser. Il y a l'affaiblissement structurel du dollar et les doutes croissants sur son statut de monnaie mondiale. Pour ça, l'or, c'est vraiment la protection
donc,
ultime.
On peut continuer à acheter de l'or et si on veut continuer à acheter de l'or, on fait comment?
C'est simple, ça n'a jamais été aussi facile d'acheter de l'or. Alors on fait soit à l'ancienne, on achète de l'or physique et là on n'est pas obligé.
Mais on achète tout, pardon.
Alors on n'est pas obligé d'acheter des lingots à 1 kilo. Vous pouvez acheter des petits lingotins, on appelle ça 10, 20, 50 grammes, ou bien un Napoléon, ça vaut 795 €. Les bijoux, c'est plus compliqué, c'est plus risqué, faut pouvoir les planquer, etc. Alors où est-ce qu'on achète? Oui, c'est galère. Où est-ce qu'on achète ces pièces d'or ou ces petits lingots? Jamais sur Internet, jamais de particulier à particulier, jamais dans des foires ou des salons douteux, mais dans des réseaux qui ont pignon sur rue. Alors, je vous cite quelques-uns des
magasins qui ont pignon sur rue.
Oui, voilà, quelques-uns des grands réseaux. Il y en a plusieurs. Il y a Godot, il y a CPE, il y a Au Coffre, etc. Et puis sinon, il y a la façon moderne qui est d'acheter de l'or papier avec ces fameux ETF, ces fonds qui répliquent l'évolution des cours de l'or. En un clic sur votre portable, vous mettez la somme que vous voulez, ou bien alors vous achetez aussi potentiellement plus classique.
Alors ça, c'est pour acheter. Et si on veut vendre?
Si on veut vendre, alors vos placements dans leur papier, bah c'est facile, hein, en trois clics, c'est réglé. Les lingots ou les pièces, c'est facile aussi. Vous allez dans des réseaux, donc qu'on a cité précédemment. Vous aurez un prix qui est basé sur le cours spot, mais il y aura quand même une petite marge qui sera prise par effectivement celui qui vous rachète l'or. Vous serez payé par virement ou par chèque. Jamais d'argent liquide. Et puis surtout, comparez les offres, hein, quand même. Faites le tour entre deux ou trois acheteurs. Attention à la fiscalité, 11,5% plus la taxation des plus-values s'il y en a. Pour les bijoux, c'est plus compliqué, c'est souvent décevant.
On a compris que les bijoux, c'était pas votre truc,
Manuel. Non, parce que par exemple, si vous avez des bijoux de famille, vous dites ah c'est chouette, il y a de l'or. Mais par exemple, l'or 18 carats, dans l'or 18 carats, il y a que 75% déjà d'or véritable. Vérifiez le poinçon, il y a pas de fiscalité, c'est l'avantage. Comparez les offres. Toujours, hein, encore une fois, et puis toujours aussi, aller dans des réseaux sérieux qui ont pignon.
Des réseaux sérieux.
Rien pour Internet, rien de particulier.
Voilà la leçon ce matin. Merci Emmanuel, il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Arnaud Demanche nous rejoint. Dans un instant, il y aura aussi le face-à-face. C'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui sera mon invité à 8h30. Et puis n'oubliez pas, tous les matins, 8h50, c'est face à Canteloup. Nicolas Canteloup et ses imitations 8h50 sur RMC tous les jours. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour. Tout va bien?
Oui.
Ça va?
Enfin, le rhume, hein. Enfin,
oui,
voilà.
Non, mais ça, on partage
non, parce
le
que vous
même.
Vous avez l'air de vous intéresser,
je m'intéresse à votre santé. Vous me préoccupez beaucoup. Je vous ai vu vous moucher pendant toute la pub. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle ma soirée.
Voilà.
Bonjour aussi aux enfants qui nous écoutent parce que ce matin, ça les concerne car cette nuit, l'Assemblée a voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée prochaine. Il était temps. Déjà que les Français font plus de gosses, si le peu qu'il nous reste passe ses journées sur des réseaux, non mais comment on va payer nos retraites s'il y en a plus peu et qu'ils sont abrutis? Donc là, vos enfants, bonne nouvelle, vont enfin se remettre à lire des livres. Mathieu, il va retrouver ses gamins sur le côté du feu. Hé les enfants, vous venez, on fait un Mario Kart? Non papa, je suis en train de finir la critique de la raison pure de Kant. Tu ne la trouves pas en totale contradiction avec la pensée de Heidegger? T'étais moins chiant quand t'avais TikTok, hein. Papa, tu n'es qu'un béotien. Vraiment, je comprends mieux pourquoi tu n'es plus sur le service public. Hey, oh, oh. Alors, Emmanuel Macron a déclaré dans une vidéo, le cerveau de nos adolescents n'est pas à vendre. Bon, déjà, qui voudrait acheter un cerveau d'adolescent? C'est pas ceux qui marchent le mieux. Puis les ados, en général, ne sont pas à vendre. On est en France, on n'est pas sur l'île de Jeffrey Epstein, voilà. Non. Emmanuel Macron va donc devoir aller s'expliquer, j'imagine, dans plein d'émissions regardées par les jeunes. Par exemple, l'émission de Jordan Deluxe, pour expliquer sa décision. Salut Emmanuel, merci d'être venu dans mon émission. Alors, Emmanuel, tu touches combien comme retraite? Mais alors, non, je suis président en exercice, moi. Ah, pardon. Je suis trop bêta-sou. J'ai tellement l'habitude de recevoir des retraités. Par exemple, hier, j'avais Daniel Gilbert. Oh, Daniel Gilbert, oh, sexy girl.
Oh,
tu sais si elle est célibataire ou veuve? Je sais pas. Alors, les réseaux sociaux. Oui, oui. Pardon, les ados passent trop de temps sur Facebook, MySpace, copains d'avant et caramel. Tout ça, c'est pas avant 15 ans. Et tant qu'on y est, moi j'ai une autre proposition, interdisons les réseaux sociaux aux plus de 65 ans. Non, parce que les boomers de Facebook, on est d'accord, c'est un dossier en soi. C'est fou, ils croient tout. Ils croient des photos en intelligence artificielle où t'as un enfant qui pleure à côté d'une statue de Jésus faite en haricots verts et il y a marqué « Personne ne m'a félicité pour ma statue ». Et t'as 60 Jocelyne et 60 Bernard qui commentent « Vous êtes très talentueux, croyez en vous, moi je vous félicite, Jocelyne du 62 ». Tous ceux qui parlent à Brad Pitt, t'as aussi ceux qui font des commentaires sous les pubs Obad en croyant qu'ils parlent à la mannequin de la pub. Ils mettent, jolie courbe mademoiselle, si jamais vous passez par Pithiviers. Gros bisous Michel, en croyant, voilà. Tous ceux qui commentent, alors t'as ceux qui commentent toutes les vidéos qu'ils voient, ils mettent toujours le même commentaire qui est « Frexit, vite !»
Oui.
Quel rapport, c'est une vidéo de chat. T'as tous ceux qui mettent des citations de Michel Audiard sur une photo de Coluche dans des groupes Facebook intitulés « Ma belle France d'avant ». Mais coupons leur Facebook à ces gens-là.
Arnaud, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé qu'il se rendrait au Groenland pour ouvrir un consulat français.
Ben voilà, on doit faire des économies, il annonce l'ouverture d'un consulat au Groenland. Il y a 25 Français là-bas, un groupe WhatsApp aurait suffi quand même. Elles vont être cool, hein, les soirées de l'ambassadeur.
les soirées de l'ambassadeur ne sont jamais un succès. Elles sont même très chiantes parce que personne vient et pourtant l'ambassadeur il est sorti sous la neige pour acheter des putains de Ferrero Rocher en importation au seul supermarché du pays pour 50 balles les 5. L'ambassadeur il rêvait de Monaco ou de Bangkok, il se retrouve à Nuuk comme un con. En plus elle dure longtemps la soirée de l'ambassadeur parce que la nuit tombe le 21 octobre à 14h30 et le soleil se lève le 22 avril à 8h. L'ambassadeur ça va quoi. Il va pas bien l'ambassadeur. Et alors dans la Creuse aussi ils font la gueule. Hein ? Ils ont un fonctionnaire pour 25 habitants. Nous on a juste un pauvre sous-pressé. Alors on est 60 habitants dans tout le département. C'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste.
C'est vrai, c'est pas juste. Juste. Notre-Dame de Bétarame devrait fermer prochainement.
Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les locaux à la place ? Ils vont pas la détruire. Il faut quelque chose qui soit à la hauteur.
Très riant.
Ouais. Il faut un truc à la hauteur, un club SM ou pire, les locaux de l'URSSAF des Midi-Pyrénées.
Ah ouais.
Et les profs, faut leur trouver un métier en relation avec leur savoir-faire. Dès qu'ils se pointent à France Travail. Alors, vous aimez maltraiter les enfants, les angoisser, les dominer? Bah écoutez, bienvenue chez TikTok. On est content de vous accueillir. Il faut que Jean-Marc Morandini délocalise son émission sur CNews à Bétarame.
Et je suis en direct de Bétarame avec l'aumônier de l'école. Alors, mon père, où sommes-nous?
Eh ben, nous sommes dans la chapelle, une très belle chapelle du XVIIe siècle. Regardez ces vitres.
Ouais. Et sinon, les douches, elles sont où?
Au deuxième étage. Qu'est-ce que j'ai comme souvenir là-haut? Oh là là. Le petit Bastien.
Non, vous aussi. Vous savez qu'on a été ensemble avec Bastien.
Oh là là, ils grandissent trop vite.
En tout cas, votre chapelle est magnifique.
Oui, ça nous coûte cher, mais vous savez, Vincent Bolloré nous a toujours soutenus.
Non, vous aussi. On a tellement de points communs, c'est incroyable.
Ça va faire une super émission. Allez, à demain.
Ah oh mon Dieu, Arnaud Demarche en direct tous les jours à 7h20 et 8h20 et à tout moment en podcast. Il est 8h21. Dans un instant, on se retrouve pour le face-à-face. Mon invité, c'est Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre. Alors, il se réjouit, il se félicite d'avoir obtenu hier la première étape de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le président aussi s'en réjouit d'ailleurs. Finalement, on n'arrive plus trop à savoir qui a fait quoi dans cette histoire et si le fils veut tuer le père. Bref, Gabriel Attal, mon invité dans un instant sur RMC et BFM TV, l'ancien Premier ministre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien Premier ministre, bien sûr, aujourd'hui député des Hauts-de-Seine et vous êtes président du groupe des macronistes, mais aussi secrétaire général du parti Renaissance, enfin, qui s'appelle encore Renaissance, on va y revenir. Ça devrait changer de nom. Pourquoi vous n'avez pas tout fait péter quand vous étiez Premier ministre ?
J'ai fait ce que j'ai pu tout au long de la fonction qui m'a été confiée, le temps que j'ai eu pour le faire. Ça a été malheureusement interrompu par la dissolution.
Ça vous choque pas le mot que j'utilise parce que vous savez évidemment à quoi je fais référence. Mais ceux qui nous écoutent, peut-être pas, vous organisez ce soir une grande soirée de réflexion, de table ronde. Et le premier thème de la table ronde, c'est « Faut-il faire tout péter pour refonder la France ?» Mais au fond, je me dis, vous avez quand même été longtemps au pouvoir. Si vous estimez qu'il faut tout faire péter, pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
D'abord, moi, j'ai été dans différentes responsabilités. J'ai été Premier ministre, j'ai été ministre de l'Éducation nationale, j'ai été à Bercy. Je pense que quand on regarde ce que j'ai porté, ce que j'ai défendu, des décisions que j'ai prises dans ces fonctions, il y a eu des mesures assez radicales. Et d'ailleurs, à l'époque, on me l'a parfois reproché. On pourrait citer à l'Éducation nationale le choc des savoirs avec le retour du redoublement, les groupes de niveau. On pourrait citer l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Quand j'étais à Matignon, les mesures que j'ai préparées sur l'assurance chômage, sur la délinquance des mineurs, bref, il y a beaucoup de choses qui ont été engagées. Surtout à Pauline de Malherbe, je crois qu'aujourd'hui, et les Français, je crois, le perçoivent, on arrive au bout d'un modèle. Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour réformer ce modèle, pour essayer de le faire évoluer. Moi, je crois qu'il est aujourd'hui totalement décalé de la réalité du pays aujourd'hui. C'est vrai pour notre modèle social. C'est vrai pour notre modèle institutionnel, c'est vrai pour les questions de sécurité, de justice, d'immigration. Tout ça, ça a été fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une France qui était totalement différente, et aujourd'hui, tout a changé.
Mais c'est vrai que c'est étrange d'entendre ça. C'est-à-dire, je comprends parfaitement ce que vous dites, et je vais même vous aller plus loin. Tous les politiques que j'ai devant ce micro disent tous qu'il faut tout changer. Alors, aucun désormais ne dit qu'il faut absolument préserver tout ce qu'on a aujourd'hui.
Vous avez quand même beaucoup de politiques, Apolline de Malherbe, qui donnent le sentiment qu'on est encore dans des débats de paramètres. Est-ce que sur la retraite, il faut passer de 64 à 65 ans, 65 ans et demi ? Est-ce que sur la fiscalité des entreprises...
Vous n'avez plus d'âge.
Ah, moi, je propose avec le Parti Renaissance un nouveau mode système de retraite. Il faut en changer parce que toutes ces réformes qui ont été faites ces dernières années pour décaler un peu l'âge légal de retraite, on voit que ça n'a pas réglé le problème. Et donc, faut assumer de changer le système. Je veux un système universel, les mêmes règles pour tout le monde, un système libre. Effectivement, je suis pour la suppression de l'âge légal. On ne garde que la durée de cotisation avec des décotes, des surcotes. Vous voulez partir tôt, bah, vous avez peu. Vous voulez partir tard, bah, vous avez beaucoup plus. Et je veux qu'on assume la capitalisation dans notre système de retraite qui permettra aux Français d'avoir une meilleure retraite et par ailleurs qui permettra de financer notre économie.
Je vais lire un autre thème de votre table ronde ce soir. Faut-il tout péter pour refonder la France? Donc, il y a écologie, économie, autorité. Est-ce que tout est foutu? Et enfin, faire de la politique en 2026, comment y croire encore? J'avoue que c'est très encourageant parce que si vous vous demandez si on peut encore y croire, c'est que si même vous le demandez, c'est que effectivement les gens n'y croient plus.
Et je pense que tous les Français, en tout cas beaucoup de Français, se posent exactement les questions que vous venez d'évoquer. Et on pourra en rajouter d'autres. Il y en a une sur les chefs d'entreprise. Parce que moi, je veux qu'on se pose les bonnes questions. Je suis à la tête d'un parti politique dans un moment qui est extraordinairement difficile pour notre pays, par ailleurs qui est difficile dans le monde. Si on n'est pas capable d'assumer de se poser les bonnes questions, même si nous, ça nous conduit à faire une autocritique, même si ça nous conduit à avoir un regard sur ce qui a pu être fait ces dernières années, qui a pu être mal fait ces dernières années sur certaines choses, on n'arrivera pas à s'en sortir. La France s'en sortira pas. Donc moi, je suis pas là. Mon objectif, c'est pas de réunir des gens pour dire tout va bien dans le meilleur des mondes, les Français sont heureux, il y a pas de problème. Au contraire, faut parler des problèmes.
Vous posez la question de savoir si tout est pas foutu.
Et surtout, ce qui est intéressant dans ces sujets-là que vous venez d'évoquer, c'est que seront réunis ce soir des personnalités qui sont pour beaucoup pas des politiques, qui sont des personnalités de la société civile. Il y aura des syndicalistes, il y aura des partenaires sociaux, des gens du patronat, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des associatifs, il y aura des intellectuels qui pensent pas forcément la même chose entre eux, qui sont loin d'être tous d'accord avec moi et avec ce que je propose, mais qui vont finalement confronter leurs idées, leurs points de vue, pour participer peut-être à refonder la France.
En revanche, un certain nombre de poids lourds de votre parti ne seront pas là. Elisabeth Borne, qui était invitée de BFM TV hier soir, a dit qu'elle avait absolument pas prévu de venir. Elle dit même, je crois même pas que Gabriel Attal soit mon patron. Vous n'êtes pas le boss du parti.
Moi, vous savez, je suis secrétaire général de ce parti. Les militants m'ont élu pour ça. Et mon objectif, c'est d'en faire un véritable parti. C'est de tout refonder et d'assumer, de dire que notre pays a changé, qu'il y a beaucoup de problèmes à régler en France et que pour ça, on peut pas faire comme avant. Voilà, c'est ça la ligne qui est la mienne. Après, pour le reste, vous savez, il y a toujours des commentaires.
Ça vous a quand même surpris ?
Il y a toujours des commentaires. Et honnêtement, voilà, chacun est libre de sa parole. Moi, l'important.
Oui, vous l'avez invité ou pas ?
Ah bah, bien sûr, tout le monde est invité à ce moment ce soir. Tous nos adhérents ont été invités. Il y aura beaucoup de monde, il y a beaucoup d'inscrits. Mais encore une fois, l'important, c'est pas de parler de nous. L'important, c'est de parler du pays et de laisser parler des Françaises et des Français qui sont pas en politique, mais qui ont des choses à nous dire.
Alors, puisqu'on est sur le parti, j'aimerais bien quand même y voir plus clair sur votre histoire de nom. Ça s'est appelé En Marche. Ça s'est appelé La République En Marche, LREM. Ça s'est appelé Ensemble pour la République. Ensuite, ça s'est appelé Ensemble tout court. Ensuite, ça s'est appelé Renaissance. Et maintenant, ça va s'appeler Nouvelle République. Alors, je vous avoue qu'en regardant tous ces noms en si peu de temps, je me suis quand même dit qu'il y avait un côté, vous cherchez, quoi.
Vous savez, moi, quand j'ai pris les rênes de ce parti il y a un an, les adhérents eux-mêmes m'ont dit qu'il fallait changer de nom. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu plein de changements de nom avant?
Quand j'étais parce qu'on savait pas très bien où vous habitez.
Quand j'étais pas aux responsabilités. Ben, je pense parce que les noms qui ont été choisis reflétaient pas forcément un projet politique. Or, je pense que le nom d'un parti, ça doit permettre d'identifier le projet politique de ce parti. Ce que j'ai répondu aux adhérents il y a un an, c'est que je souhaitais d'abord qu'on travaille sur le fond et sur le projet.
D'ailleurs, vous dites, une fois qu'on a fait ce travail de réflexion sur le fond, le nom peut changer pour refléter une idéologie.
Exactement.
C'est quoi votre idéologie?
Moi, je le dis souvent et je pense que ça rassemble les femmes et les hommes qui sont chez Renaissance. Moi, je suis libéral en matière économique. C'est-à-dire que je crois que si on veut avoir un financement de nos services publics, notre modèle social, il faut de l'emploi, il faut de la croissance. Pour ça, il faut des entreprises. Et donc, il faut permettre à nos entreprises d'être compétitives. Je suis très ferme sur les questions régaliennes. La sécurité, la justice, l'immigration, la laïcité, l'autorité. C'est peut-être un angle mort de ces dernières années. Il faut assumer de le dire dans la politique qui a été conduite par les gouvernements.
Le régalien, c'est-à-dire toutes ces questions d'autorité, de laïcité, oui. Vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment attaqué, vous les macronistes, je veux dire.
J'estime que collectivement, effectivement, il y a une forme de constat d'échec sur un certain nombre de sujets. C'est une réalité. Et encore une fois, c'est pas un gros mot de le dire. En tout cas, moi, à chaque fonction qui a été la mienne, j'ai tout fait pour agir sur ces sujets-là. On pourra y revenir. Je suis progressiste sur les questions sociétales et sur les questions climatiques. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. des droits supplémentaires pour les Français, que ce soit en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit en matière de fin de vie. Vous savez que je défends un texte pour des personnes qui sont dans une situation incurable, qui souffrent, qui n'ont pas d'autre solution, il puisse y avoir une aide active à mourir. Et enfin, je suis profondément pro-européen. Voilà, si je devais résumer ce en quoi je crois, je pense que ça permet de répondre à un certain nombre de problèmes que se posent les Français, et par ailleurs que ça permet de rassembler assez largement.
Le journal la République, la Nouvelle République, initialement la Nouvelle République du Centre, vous l'avez vu, a réagi à votre nouveau nom. Donc
Il n'y a pas de nouveau nom encore, Apolline de Malherbe.
Ah bon, ce ne sera pas la Nouvelle République ?
J'ai annoncé que le nouveau nom, ça serait après les municipales. Il y a plusieurs noms qui sont possibles.
Dont la Nouvelle République.
Parce que la Nouvelle République, c'est une dynamique qu'on a lancée au mois de septembre dernier à Arras, précisément pour assumer qu'il faut refonder les institutions en France, qu'il faut refonder notre modèle si on veut qu'il survive.
Vous dites pas que c'est complètement acté, mais enfin c'est quand même Nouvelle République.
Je dis rendez-vous après les municipales. C'est vrai que sur Nouvelle République, ça incarne ce projet qu'on veut porter pour le pays. Maintenant, on verra.
Comme LFI avec la 6ème République.
On verra à ce moment-là. Non, c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas la même.
Parce que derrière Nouvelle République, on parle pas que des institutions comme le fait LFI avec la 6ème République. On parle de notre modèle social qui ne peut plus tourner dans la démographie actuelle. On parle de notre modèle régalien. Comment est-ce que on juge les mineurs? Comment est-ce qu'on garantit la sécurité? Comment on gère les flux d'immigration en France? On parle de notre modèle démocratique, c'est vrai, nos institutions, et on parle de notre modèle économique.
Je le disais, le journal Nouvelle République, en tout cas, pense effectivement que tout converge à changer votre nom vers Nouvelle République. Ils disent le président du parti de la République changera bientôt de nom. Problème, il opterait pour celui d'un groupe de presse historique, le nôtre. Gabriel Attal ambitionne de changer le nom de son parti après En Marche, La République En Marche. Ce serait donc la Nouvelle République, peut-être parce que Jean-Luc Mélenchon, disent-ils, a politiquement préempté l'appellation 6ème République. Et ils ajoutent, l'hommage est embarrassant, même si la timidité de Gabriel Attal est émouvante. On y perçoit une certaine ironie. Le leader politique n'a en effet pas osé informer la Nouvelle République de son idée. Timide mais prudent, il a tout de même interrogé des juristes. Et puis surtout cette fin assez grinçante. La Nouvelle République en a vu d'autres, dit l'édito ce matin donc de la Nouvelle République. Elle attend déjà que la Macronie passe à autre chose. Si Gabriel Attal manque d'inspiration, qu'il s'intéresse aux municipales. Ce rendez-vous électoral dans lequel son parti peine à peser, mais que la Nouvelle République chronique sans parti pris. Qu'est-ce que vous répondez ?
Bon, d'abord, heureusement, la Nouvelle République, ou la République tout court, elle appartient à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a déjà un parti qui s'est appelé comme ça, ou quasiment,
tout à fait.
Le parti du général de Gaulle, en 1958, qu'il a créé l'Union pour la Nouvelle République. Voilà, après, moi, j'ai beaucoup de respect pour la PQR, y compris les éditos grinçants, comme vous dites. Je suis très engagé aussi sur la question des municipales, évidemment, qui est un scrutin majeur pour les Français. On a des candidats Renaissance.
Ils disent effectivement que votre parti peine à peser, c'est juste. Il peine à peser quand même.
D'abord, faut voir les élections, le résultat des élections. Ensuite, vous savez.
Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas de candidat.
Mais vous savez, d'abord, la plupart des candidats aujourd'hui en France, quel que soit leur parti d'origine, en général, ils se présentent avec leur étiquette propre locale. C'est vrai pour les gens qui viennent de gauche, de droite, du centre, etc. Parce que c'est des élections locales. Et ensuite, on a des candidats un peu partout en France, je peux vous dire. Il y a plein de villes, on a des candidats, je pourrais en parler ici. Et il y a d'ailleurs plein de villes qu'on va gagner avec nos candidats à l'occasion de ces municipales.
Donc pour vous, il n'y a pas de problème sur les municipales
vous... Ah non, vous savez, ça fait un an qu'on travaille sur les municipales. Et on a assumé de dire qu'il y a certaines villes où on considère qu'il faut se présenter sous nos propres couleurs, parce que c'est nous qui avons les meilleures idées pour cette ville, parce qu'on a travaillé, etc. Il y a des villes, on a assumé de dire, on va soutenir un maire sortant, ou une autre équipe qui se présente, parce qu'ils sont mieux préparés que nous, parce qu'ils ont des valeurs, des idées qui correspondent aux nôtres. J'ai envie de vous dire, c'est très bien. Moi, je pense que les gens, ils en ont marre aussi de voir ces partis qui, en permanence, disent, quoi qu'il arrive, je suis pas d'accord avec les autres, je vais me présenter sous ma bannière, avec mon drapeau, et je me fiche de savoir s'il y a d'autres candidats qui sont en accord avec mes idées.
Interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Première étape franchie hier. Est-ce que vous vous dites que ça va effectivement pouvoir entrer en application comme vous l'espérez au 1er septembre? Certains disent que si l'Union européenne ne vous suit pas, ça restera lettre morte.
L'Union européenne, elle nous donne la possibilité de l'interdire. Et ça, c'est très important. Vous savez, moi, c'est un combat que je mène depuis longtemps. Septembre 2023, je m'exprime pour la première fois en tant que ministre de l'Éducation nationale pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il y a eu beaucoup de travail depuis, notamment avec une députée de mon groupe, Laure Miller, avec des membres du gouvernement, je pense à Clara Chapaz, qui était membre du gouvernement précédent sur le numérique. Et il y a eu aussi un travail au niveau européen. Grâce à deux eurodéputés de notre groupe, Valérie Ayé et Stéphanie Yoncourtin, la Commission européenne nous a donné il y a quelques mois le droit de pouvoir interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. On vient de le voter à l'Assemblée nationale. C'est une étape décisive. Donc pour vous répondre, oui, cette mesure pourra entrer en vigueur au 1er septembre 2026, à condition que le texte soit définitivement adopté. Ça va passer au Sénat, je pense, à peu près dans un mois. Mais on sera le premier pays de l'Union européenne à mettre en œuvre cette
mais
mesure.
Mais précisément,
qui est
selon une source à la Commission européenne qui s'est confiée à notre journaliste sur les questions notamment d'Internet, Raphaël Grabli, la France ne pourra pas obliger les réseaux sociaux à vérifier l'âge des internautes à partir du 1er septembre 2026 parce qu'il s'agit d'une compétence européenne.
Mais justement, la compétence européenne, c'est le Digital Services Act. Désolé de rentrer dans les détails.
Non, non, au contraire, allons-y. Moi, ce que je veux, c'est justement qu'on rentre dans les détails pour savoir si au-delà des mots, ça va vraiment marcher.
Et dans son article 23, ce texte européen donne la possibilité désormais aux États membres de pouvoir l'interdire dans leur pays. Pourquoi c'est important, juste très rapidement, parce qu'il y a probablement beaucoup de parents qui nous écoutent et que ça intéresse. C'est important parce que, vous savez, je suis très engagé dans la lutte contre le harcèlement à l'école. J'ai beaucoup œuvré en la matière. Le harcèlement, il passe aujourd'hui beaucoup, malheureusement, par les réseaux sociaux. C'est important parce qu'on voit que l'usage des réseaux sociaux très jeunes et de manière très prolongée, ça a un impact sur les capacités de réflexion de nos enfants. Il y a une étude américaine qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre que pour un adolescent qui passe 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, en 2 ans, c'est un retard par rapport aux autres adolescents de l'ordre de 6 mois. En termes de développement, en termes d'apprentissage, etc. C'est important parce que ça agit sur la santé mentale de nos enfants. Et c'est important, enfin, parce que derrière ces plateformes de réseaux sociaux, il y a des puissances, il y a des pays, la Chine, les États-Unis, qui parfois, tenez-vous bien, n'autorisent même pas ces réseaux sociaux pour leurs propres enfants dans leur pays. Et donc moi, je veux qu'on puisse être indépendant en la matière, qu'on puisse protéger nos enfants.
Et est-ce qu'il ne faut pas carrément interdire TikTok? Certains estiment qu'il faut interdire TikTok. C'était le cas de Raphaël Glucksmann à ce même micro hier. D'autres s'interrogent même sur la vente de smartphones au moins de 15 ans.
Non, moi, d'abord, je ne suis pas contre les réseaux sociaux par principe. Les réseaux sociaux, ça peut aussi être quelque chose de bien. Ça permet de découvrir des choses, ça permet d'apprendre, ça permet de rencontrer des gens. Je suis pas pour l'interdiction des réseaux sociaux. D'ailleurs, je les utilise moi-même pour communiquer. En revanche, je pense que comme pour tout, il faut un cadre, il faut une régulation. Et oui, il faut assumer de dire qu'en dessous de 15 ans, les réseaux sociaux, ça apporte plus de mal que de bien. Et donc, j'assume de défendre cette mesure depuis 3 ans. Désormais, l'Assemblée l'a votée, c'est une étape décisive, on va pouvoir poursuivre. La question qui est posée derrière tout ça, c'est dans quel modèle de société on veut vivre, Apolline de Malherbe. Est-ce qu'on veut vivre dans une société de l'incivisme, une société de la brutalité, du harcèlement, ou est-ce qu'on veut vivre dans une société humaniste? On accepte de prendre soin les uns des autres, on refuse la violence, notamment dès le plus jeune âge. Moi, c'est dans cette deuxième vision que je m'inscris. Et donc oui, on va pouvoir interdire les réseaux.
Vous savez que du côté de l'Élysée, ils estiment quand même que vous êtes assez mesquin sur cette histoire. Ils trouvent que finalement, c'est quand même un des combats d'Emmanuel Macron et que vous êtes en train de tenter d'en faire votre combat à vous.
C'est un combat collectif. Vous savez, vous pouvez reprendre toutes mes déclarations. Septembre 2023, je crois que j'étais un des premiers à dire qu'il fallait interdire les réseaux au moins de 15 ans. Il y a un an, j'ai signé une tribune avec Marcel Ruffo, le grand pédopsychiatre.
Non, mais est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que ça a même du sens de vous poser cette question-là? Mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que maintenant, c'est à celui qui va montrer qu'il s'émancipe le plus du président de la République.
Bah, là, en l'occurrence, je défends une idée, une proposition qui est aussi défendue par le président de la République.
Donc, pour le coup,
il y a de nombreux Français, de nombreux responsables politiques qui défendent ce combat. D'ailleurs, regardez hier à l'Assemblée nationale. Je crois que quasiment tout le monde a voté ce texte, à l'exception évidemment des insoumis qui votent contre tout. Mais donc on voit bien que c'est un combat qui est collectif.
Donc aujourd'hui, ceux qui sont vraiment hors, j'allais dire, d'une sorte de consensus, c'est LFI.
Bah, on a encore vu sur ce sujet-là hier. Je veux dire, là, on parle de protéger nos enfants. Et en plus, on a entendu des choses assez lunaires parce que dans les discours qui avaient été faits par les insoumis à la tribune, ils expliquent effectivement qu'il y a un problème de santé mentale chez nos plus jeunes, qu'il y a un problème de harcèlement, qu'il y a probablement un problème d'enfermement dans des algorithmes. Mais quand il s'agit de dire, on prend une mesure pour régler ce problème-là, il n'y avait plus personne. Je dis un mot pour les parents qui nous écoutent ou les jeunes qui nous écoutent. Ils posent beaucoup de questions. Je reçois un nombre de messages, comme j'ai jamais reçu, de parents, de jeunes qui me posent des questions, comment ça va se mettre en œuvre, etc. On a lancé un site internet, Stop Réseau, au pluriel, donc x.fr. Vous vous rendez sur ce site, on a mis toutes les informations. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs pour être mis à jour et recevoir régulièrement les informations dans les mois qui viennent, parce que beaucoup de gens se posent des questions. stopreseau.fr.
C'est clair. Gérald Darmanin dit « J'y pense et je m'en sens capable ». Édouard Philippe est officiellement, clairement, en campagne. Est-ce qu'il y aura une primaire pour vous départager? Vous allez faire comment?
Moi d'abord, il y a beaucoup de candidats sans projet. Moi, je veux que notre projet ait un candidat. Donc, je prends les choses dans l'autre sens. Et c'est le droit de plein de personnalités de dire.
Mais
moi,
vous
je
suis... aussi. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même lire les choses.
Moi, Gérald Darmanin, j'ai pas déclaré de candidature.
Non, mais vous pouvez pas dire que vous y pensez pas.
Mais, enfin, moi, ce que je dis d'abord, c'est que pour se présenter devant les Français, ce qui est quand même pas une petite chose, président de la République. D'abord, faut avoir beaucoup réfléchi soi-même. Ça nécessite beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination. Ensuite, il faut se présenter avec un projet. Donc, qu'il y ait des candidats sans projet, c'est leur droit. Moi, ce que je veux, c'est d'abord qu'on finalise notre projet avec Renaissance. Ça fait un an qu'on est dessus. On a présenté nos mesures en matière de sécurité, de justice, d'immigration, de laïcité. Nos mesures en matière d'économie et de climat. Nos mesures en matière de retraite. On va continuer dans les semaines qui viennent sur
mais
la santé,
que ce sera un projet commun,
sur l'éducation.
Est-ce que ce sera un projet commun? Est-ce que vous allez proposer ce projet que vous êtes en train d'écrire? Vous dites c'est notre projet. Pour paraphraser évidemment Emmanuel Macron. Ok, c'est votre projet, mais est-ce que ça veut dire que vous allez voir Gérald Darmanin, vous allez voir Édouard Philippe, vous allez leur dire voilà, on s'est mis d'accord sur un projet. Maintenant, est-ce que tu veux l'incarner? Est-ce que toi tu préfères l'incarner? Est-ce que je l'incarne? Comment vous allez faire?
Alors d'abord, ça c'est un projet qui incarne Renaissance. C'est un projet sur lequel ont travaillé les adhérents, les élus, des experts qui sont venus nous
mais
aider.
Mais ils vous engagent ce projet
avec Renaissance. Les personnalités que vous citez, que ce soit Édouard Philippe ou Gérald Darmanin, sont pas membres de Renaissance. Donc ça c'est notre projet. Et puis ensuite, on va le défendre. Ensuite, je vais vous dire il y aura une campagne. Et dans cette campagne, j'espère que ceux qui défendent les mêmes idées, les mêmes mesures...
En tout cas, vous ne souhaitez pas de primaire de manière... Quand vous voyez que la gauche est en train de mettre en place cette primaire, vous vous dites, c'est pas notre...
Ça fait j'ai pas jamais pas... exclu cette possibilité-là. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la plupart de ceux qu'on présente comme des candidats principaux sont contre l'idée de la primaire, qu'il y a beaucoup de débats sur le périmètre de cette primaire, etc.
Mais vous, vous...
Moi, je vais vous dire, ce qui m'importe, c'est un, qu'on puisse défendre un projet pour le pays.
Oui, j'ai compris.
Et deux...
Avec
de
humilité et détermination.
Non, mais et deux, qu'on ne se retrouve pas avec un second tour entre la France Insoumise et le Rassemblement National qui serait terrible pour le pays. Et donc que des personnalités qui défendent grosso modo un projet proche, bah, évidemment, ne soient pas toutes candidates à l'élection présidentielle. C'est dans 16 mois. Je pense qu'il y a du chemin d'ici là.
Et d'ici là, vous allez
du rassemblement, j'espère.
Tout faire péter ce soir, donc, au Palais Brongniart. Merci, Gabriel Attal, d'avoir été mon invité ce matin, ancien Premier ministre et évidemment à la tête du parti Renaissance. 8h48. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, est resté pour vous écouter, Nicolas Canteloup. Rebonjour, Gabriel Attal.
Bonjour, et je suis ravi d'assister à ce
moment. Et Jean Castex souhaitait justement vous dire un mot.
Aimez-moi donc, madame Malherbe. Je le connais bien, Gabriel. Il a été, précisons-le, mon porte-parole, mais plus que ça, mon représentant, mon ambassadeur, mon porte-voix, mon mégaphone. Et croyez-moi, c'est là où j'ai vu le garçon briller. Qu'il était motivé, parce que pendant la Covid, Mme Malherbe, il fallait s'accrocher pour expliquer les mesures aux Français. Hein. Moi, je l'écoutais attentivement, parce que moi-même, mes propres mesures, j'avais du mal à les comprendre. Hein. Il a passé 2 ans à annoncer les confinements en heure creuse, en heure pleine, en heure quasi-creuse, en heure semi-pleine, les jauges debout pour les salles de plus de 1000 personnes, mais assises dans les jauges de moins de 500.
Oui,
avec les tables de la Noël à limiter à 6 personnes sans papier mamie, sauf s'ils avaient bien sûr rempli une auto-attestation pour pouvoir circuler dans les départements se terminant par 4, 6 ou 9. Non, c'était, il faut le reconnaître, ardu.
Oh oui, on s'en souvient. Hein.
Alors, je n'oublierai jamais que pendant 2 ans, il m'a régulièrement aidé trouver mes lunettes. En tout cas, Gabriel, si tu souhaites bifurquer, on ne sait jamais, que préserve la vie, sache que Jean-Claude Farigoul, le porte-parole de la SNCF, va bientôt partir.
Ah,
ben
ça pourrait être un job vraiment intéressant, voilà. Je pense.
Oui, parce qu'il est en âge de prendre sa retraite, puisqu'il a bientôt 47 ans passés.
Donc,
si tu souhaites postuler, envoie-moi un SMS, je mettrai ton dossier en haut de la pile.
Merci beaucoup, monsieur Castex. Et justement, on en parlait ensemble, Gabriel Attal est toujours avec nous. Monsieur Attal, avant la SNCF, votre préoccupation, c'était surtout de changer le nom du parti Renaissance pour Nouvelle République.
Apolline Malherbe. Le plus important, ce n'est pas le nom, c'est le projet.
Oui.
C'est le projet. Mmh. C'est pas le candidat, on s'en fout, c'est le projet, le projet. C'est le projet. Il faut qu'il témoigne d'un nouveau souffle. Alors c'est vrai, ça peut être Nouvelle République, mais c'est vrai que ça sonne un peu presque quotidienne régionale, je vous l'accorde. Et mes ambitions, vous l'avez compris, sont plutôt nationales.
Oui.
Donc le nom n'est pas totalement arrêté. Ça peut être Nouvelle Renaissance.
Oui.
je ne sais pas moi, renaissance d'une nouvelle république naissante.
Ah oui, c'est bien sûr.
Ça peut être même naissance d'une république nouvelle naissante vers le renouveau d'une naissance.
Ah oui.
En tout cas, l'idée, à plein de manières, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fasse surtout, l'idée, c'est que ça fasse nouveau, mais surtout, qu'on oublie ce qu'il y avait avant.
Ah oui, c'est quand même ça l'idée. Alors rapidement, un mot quand même sur l'international. Monsieur Attal, vous prenez un changement de doctrine avec plus de fermeté, notamment vis-à-vis de Donald Trump.
Apolline Malherbe, oui. Le monde change. Il faut toujours être vigilant. C'est pour ça que j'ai toujours les yeux écarquillés. Parce que croyez-moi, il faut garder les yeux ouverts. Vous voyez, la dissolution, je n'ai pas vu venir. Pour en venir à Donald Trump, pour moi, c'est un ado turbulent. S'il était en face de moi, je lui dirais « Donald, tu casses le nu, tu casses le temps, tu répares. Tu salis la mémoire de l'Amérique, tu nettoies. Tu veux avoir bonne mine, tu mets de l'autobronzant.
Voilà.
Tu veux le Groenland, tu mets des glaçons dans ton coca.
Voilà.
Tu regrettes le temps des soirées Epstein, tu achètes une poupée chine.
Non.
Tu te moques du président Macron, tu... Ben là, tu peux y aller, fais-toi plaisir.
Oh. Oh, merci, monsieur Attal. Ce matin, Pascal Praud est avec nous pour les titres.
Bonjour, très heureux d'être avec vous, chère Apolline, mais un peu moins d'être en face de Gabriel Attal, macroniste de la première heure. Du coup, j'ai pris mes précautions. J'ai mon crucifix avec moi, mes gousses d'ail et mon eau bénite pour me protéger. C'est parti pour les titres. Avec ce rappel de boîte de lait infantile contaminée après Nestlé Lactalis, pardon, c'est autour de Danone. Comme quoi, en France, il n'y a pas que la DZ Mafia qui vend des salades. Le prix en poudre. Et puis Groenland, la Maison Blanche a publié, vous l'avez vu peut-être, une photomontage où l'on voit Donald Trump en train de tenir la main d'un manchot. Oui, d'un manchot, bien oui. Sûr, je précise. L'animal, sinon ça n'aurait aucun sens. Oui. Mais les wokistes et autres bobos gauchistes ont cru bon polémiquer sur ce sujet en disant que les manchots vivaient dans l'hémisphère sud et que le Groenland, c'était des pingouins. Mais franchement, ça intéresse qui? On s'en fout. C'est manchot pingouins, tout ça, c'est pareil, c'est comme les Chinois, les Vietnamiens. Excusez-moi, c'est pareil, Timothée Xer, Alain Marchal, vous sauriez faire la différence entre un pingouin et un Chinois? Non, mais voilà. Polémique toujours, la SNCF a lancé une nouvelle classe avec des wagons sans enfants. Écoutez, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. À CNews, ça fait longtemps qu'on a tout un étage réservé aux adultes et interdit aux enfants. C'est l'étage où se prépare l'émission Morandini.
Oui, c'est ça. Merci Pascal. Le sénateur Joël Guerriau est poursuivi en justice pour avoir tenté de droguer sa collègue Sandrine Josseau. Gérard Larcher, vous vouliez réagir.
Oui, bonjour madame Malherbe. Avant toute chose, j'aimerais saluer Gabriel Attal.
Oui,
j'aime beaucoup Gabriel. J'aime beaucoup Gabriel, surtout son nom. Hein. Dès que j'entends Attal, j'ai l'estomac qui gargouille. Oui, alors, cette affaire, Joël Guerriau, m'attriste pour la réputation du Sénat. Qu'est-ce qu'il avait besoin de mettre des drogues dans le verre de cette pauvre dame pour l'endormir alors qu'il suffisait de lui faire assister à une séance de débat sur la péréquation financière des collectivités territoriales et de leur influence sur le chiffre d'affaires des PME dans les zones franches, sur les zones littorales. Ça, juste derrière un repas à la cantine du Palais Luxembourg, je vous assure que la pauvre dame partait pour 4 heures de sieste.
Merci beaucoup, monsieur Larcher, pour vos réflexions. Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des Grandes Gueules. Quel est le programme, Alain ?
Bonjour Apolline. Aujourd'hui dans les Grandes Gueules, nous parlerons d'Alex Pretty, cet homme abattu dans le Minnesota par la police américaine avec Willy. Willy qui vient justement de passer son permis de chasse et qui en plus connaît très bien l'Amérique puisqu'il est lui-même passionné de musique country.
Ah bah oui,
et puis nous reviendrons également sur les wagons sans enfants avec Jean Jérôme qui est bien placé pour en parler puisqu'il est passionné de train électrique. Et il adore y jouer tout seul dans le calme pendant que justement ses enfants ne sont pas là et qu'ils sont à l'école. Alors on en parlait avec Gabriel Attal. Faut-il interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans? Mais ce sera intéressant d'entendre le témoignage de Sylviane qui ne comprend pas que ce sujet soit mis à l'honneur puisqu'elle habite la Creuse et qu'il n'y a ni internet ni jeunes. Voilà, ce matin encore, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci Nicolas et merci à Gabriel Attal d'être resté avec nous. Face à Cantelou qu'on retrouve donc dès demain 8h50 sur RMC et dans un instant, le vrai programme, Alain.
Effectivement, les GG, les grandes gueules, dans un instant, on reviendra sur la décision du gouvernement de mettre fin au financement du permis de conduire via le compte professionnel de formation. C'est quand même un quart des gens qui passent leur permis grâce à ce CPF. Vous venez en discuter, vous venez commenter ça avec les GG au 32-16 en direct de 9h à midi.